Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans ce livre audio. La raison pour laquelle j'ai conçu ce projet est pour finalement répondre à la demande de mes proches et de mes nombreux amis. Lorsque j'ai entrepris mon pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en juillet 2017, j'ai tenu à tous les jours un journal de bord dans lequel j'écrivais mes impressions et des descriptions détaillées des moments marquants de chacune de mes journées de marche. Mon but était de conserver le plus précisément possible tous ces précieux souvenirs en les mettant par écrit sur des pages. À mon retour de ce voyage, beaucoup de gens de mon entourage ont voulu m'emprunter ce journal de bord pour découvrir en détail tout ce que j'avais vécu sur les sentiers de marche de l'Espagne. Le problème, c'est que j'avais la forte impression que si je prêtais mon précieux journal à plusieurs personnes, quelqu'un finirait par l'égarer ou l'endommager pour ruiner cette collection de souvenirs très importante pour moi. Qu'à cela ne tienne, pour solutionner la situation et satisfaire tout le monde, j'ai eu l'idée de mettre à profit mon équipement d'enregistrement audio ainsi que ma belle voix radiophonique pour transformer mes écrits en romans audio. Ainsi, tout le monde pourra simplement télécharger un fichier MP3 pour que je puisse personnellement vous faire découvrir tous les moments incroyables de chaque jour de mon aventure qui a duré un peu plus d'un mois. En prime, vous serez accompagné musicalement par les chansons et les pièces musicales que j'écoutais pendant mes longues journées de marche. Juste avant qu'on commence, j'ai quelques informations importantes à vous donner en guise de mise en contexte pour mieux comprendre un aspect important de mon voyage. Le 29 juillet 2016, mon père est décédé après s'être courageusement battu pendant un an contre un cancer du poumon. Après la mise en terre de ses cendres au cimetière, j'ai conservé une certaine quantité des cendres dans le but de les amener avec moi en Espagne pour en répandre une poignée dans les lieux qui seraient symboliques et d'une grande beauté à mes yeux. Ça ajouterait aussi une dimension mystique et réconfortante en me disant que je serais, en quelque sorte, accompagné pendant tout le voyage par le meilleur partenaire de marche possible, mon père. J'ai pu passer de la parole aux actes en amenant dans mon paquetage le sac de cendres. Alors gardez bien ça en tête, ça va vous être utile pour la suite des choses. Maintenant, êtes-vous prêt à venir vivre en ma compagnie une odyssée de marche palpitante qui vous fera traverser l'Espagne au complet jusqu'à la fameuse cathédrale de Santiago et plus loin encore? Accrochez-vous! On part tout de suite. Juillet 2017. Montréal jusqu'à Madrid. Je suis à quelques heures de prendre un taxi vers l'aéroport de Dorval. Aussi à quelques heures d'arriver en Espagne pour accomplir un projet que j'ai en tête depuis au moins les 7 dernières années. C'est presque irréel de penser que je vais passer le prochain mois à marcher à tous les jours pour arriver, plus de 700 km plus tard, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me sens aussi fébrile et nerveux de sortir de mon quotidien pour foncer tête première dans un pays dans lequel je suis jamais allé, parlant une langue que je maîtrise pas complètement et me retrouver loin de tout repère sécurisant. En même temps, je me laisse pas effrayer par ce sentiment passager d'insécurité. Il me suffit de m'en tenir aux étapes de mon plan et aux habitudes que j'ai acquis lors de mes précédents voyages et tout ira bien. C'est plus le temps de remettre ça à plus tard ou de me désister. J'ai beaucoup trop besoin de cette pause dans ma vie. Les dernières années n'ont pas été de tout repos au niveau personnel, familial et professionnel. Prendre un break de toutes les sortes de stress quotidiens de la vie de Montréal est ce dont j'ai grandement besoin. Mes maux de dos chroniques et tous les nombreux nœuds que j'ai dans les omoplates me rappellent à tous les jours que je pousse toujours mon corps et mon esprit au maximum pour des raisons et des causes qui me ressemblent pas et dont je retire pas assez souvent les bénéfices escomptés. Il est aussi temps pour moi de faire une pause sur les frustrations quotidiennes venant des gens qui m'entourent. Je n'ai vraiment plus besoin de ça. Je suis définitivement prêt à m'ouvrir à autre chose, à un mode de vie plus simple qui tourne autour de la marche à pied. La chose qui me rend le plus zen et qui me fait le plus grand des biens depuis déjà 16 ans. Je suis rendu là dans ma vie. Ça me rappelle un livre de Tolkien dans lequel Gandalf le Gris demande à Bilbon Sacquet s'il a envie de participer à une aventure. Si on me pose la même question, je suis prêt à répondre que oui. Oui, je suis plus que prêt pour une aventure. Et ça tombe bien, j'en ai une qui sera assurément mémorable et qui commence dans quelques heures. Allez, à plus! Juillet 2017, Montréal jusqu'à Madrid. Ouf! Ma première journée en Espagne n'est pas encore terminée, mais elle comporte déjà bien des rebondissements. Il est 16h50, heure locale, et j'ai pas encore dormi depuis les 27 dernières heures. Mais c'est pas vraiment un problème, j'ai déjà fait bien pire que ça. Mon vol de nuit jusqu'à Madrid s'est très bien déroulé. Deux films au menu, des grignotines, et voir le soleil se lever à l'horizon à 1h du matin a occupé le trajet de 6h. On a même eu 40 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Arrivé à destination, ce fut un certain casse-tête pour élaborer le trajet de métro pour joindre la station pour prendre le TGV. Une employée du métro m'a donné une carte avec le chemin le plus simple pour y arriver. 3 changements de voie plus tard, me voilà à la gare Atocha. Après un 2 heures d'attente et beaucoup de mal à figurer ou faire mon embarquement, le guest que j'ai pris s'est avéré le bon. C'est là où le bordel a vraiment commencé. Mon billet indiquait ma place dans le compartiment 6, mais le train n'avait aucun compartiment à ce numéro, mais plutôt 2 compartiments numéro 16. Disons que cette bourde a fourré pas mal de monde. Après 3 essais et des discussions avec les employés du train, ils ont fini par assigner un compartiment numéro 6. Ce bordel a causé un retard de 30 minutes sur l'horaire du train, ce qui fait que quelques passagers, dont moi-même, avons raté le train de connexion devant nous amener à Logroño. On s'est tous posé bien des questions sur la suite des choses, tout en regardant Assassin's Creed qui jouait dans le wagon, ainsi que les superbes paysages espagnols qui défilaient par la fenêtre. J'écris présentement ces lignes dans le lounge VIP de la gare de Zaragoza, en attendant le prochain train sur lequel m'a mis la compagnie ferroviaire pour rejoindre Logroño plus tard en soirée. Les drinks et les pâtisseries offerts aux frais de la princesse d'Espagne font passer le temps. En plus, ce qui est le fun, c'est que mon billet me sera remboursé par la compagnie ferroviaire en guise d'excuse de la bourde qu'ils ont commis. Mise à jour numéro 1 plus tard en soirée. Le train m'a finalement déposé à Logroño. 5 minutes de taxi plus tard et je suis à mon hôtel. Je me suis permis une petite marche dans la ville pour trouver l'emplacement de mon point de départ pour demain. Il est dans un parc nature superbe et à moins de 10 minutes de mon hôtel. Pour l'instant, c'est le temps d'un bain chaud et ensuite au lit. Plus que 30 heures debout, ça commence à se faire sentir. Allez, à plus. Juillet 2017. Logroño jusqu'à Nájera. Distance parcourue, 30 km. La première est enfin faite. Rien de moins qu'un 30 km pour commencer. Mon premier commentaire à chaud comme ça. Aïe aïe, champue mes pieds, tabarnak. Le trajet pour sortir de Logroño n'a pas été des plus simples. Il a fallu que j'apprenne la signalisation du chemin et ses nombreuses subtilités en catastrophe. Je me suis trompé de direction à 2 ou 3 reprises, mais des passants m'ont gentiment indiqué la bonne direction. Une fois hors de la ville, la signalisation est très facile à suivre. En me promenant dans la campagne, mes émotions ont été en montagne russe toute la journée. Tantôt j'étais déterminé et émerveillé, tantôt j'étais insécure dans ce nouveau décor inconnu et inquiet des ampoules et des petites douleurs familières à mon dos et à mon genou droit. Il y a même des larmes qui ont coulé pour une raison que j'ignore encore. Sûrement un genre de mix de joie d'être enfin ici et d'émerveillement devant les paysages impressionnants que j'ai vus toute la journée. J'ai même trouvé un endroit génial pour commencer à répandre les cendres de papa. Étrangement, la bouffe passe pas aujourd'hui. Les sandwichs et les barres d'énergie sont durs à avaler. Le cœur me lève lors de chaque bouchée. Heureusement, l'eau et les fruits passent sans problème. Avec les pauses et les changements multiples de bas, la distance m'a pris 8 heures à parcourir. J'ai aussi déclaré que les bâtons de marche sont la plus belle invention depuis l'imprimerie et les pantalons à taille basse. C'est la première fois que j'utilise ces accessoires et ils m'ont été très précieux dans les nombreuses côtes à monter. J'ai aussi très bien toléré le temps chaud de l'après-midi. Un petit vent et quelques rares zones d'ombre ont été les bienvenus. J'ai atteint ma destination vers 17h15 et je me suis trouvé une petite auberge sympa où je vais cochambrer avec 3 autres personnes. J'ai pu y prendre une douche chaude et laver mon linge de la journée. J'ai eu le temps d'aussi me promener dans le voisinage. Le village est très beau. De plus, les jolies demoiselles espagnoles sont de toute beauté. Les yeux me louchent depuis hier. Allez, c'est l'heure de tenter de trouver un endroit pour recharger mon cellulaire. À demain pour d'autres aventures. Juillet 2017. Nájera jusqu'à Santo Domingo de la Quesada. Distance parcourue, 21 km. Mon sommeil léger a été interrompu à 5h30 du matin, lorsque de nombreux pèlerins du dortoir se sont levés pour s'habiller et partir avec leur sac à dos. Ils sont nombreux à faire ça à tous les matins pour finir leur étape du jour vers midi, afin d'éviter le temps chaud de l'après-midi. Quant à moi, j'ai mis les voiles à 7h45 en direction de Santo Domingo de la Quesada, une étape de 21 km. Contrairement à hier, je suis vraiment calme et zen. La distance d'aujourd'hui aide beaucoup à me sécuriser parce que mes séances d'entraînement à Montréal étaient d'aussi 20 km. Le temps frais était au rendez-vous ce matin et c'était vraiment parfait pour entreprendre les quelques longues montées et descentes. Je suis bien heureux d'avoir eu mes bâtons de marche pour me porter assistance. Les panoramas superbes attendaient les marcheurs aujourd'hui. La campagne et ses immenses champs de blé étaient notre décor pour ce chapitre. J'ai beaucoup apprécié. Même si l'acide lactique s'est mis la partie dans mes cuisses et que les ampoules ont commencé à faire leur apparition sur mes pieds. Je mettrai à l'essai mes techniques pour atténuer leurs divers inconforts demain matin. L'arrivée à destination s'est faite à midi. L'auberge dans laquelle je réside en ce moment est vraiment bien conçue. Le village dans lequel je suis est très agréable et me fait beaucoup penser aux rues du Vieux-Montréal. Il fourmille aussi d'un grand nombre de commerces très utiles. Il faut absolument pas que j'oublie de mentionner les trois coqs dans la cour arrière de l'auberge qui me rappellent leur présence en me criant dans les oreilles pendant l'écriture de ces lignes. Bon, fin du chapitre pour aujourd'hui. J'ai un nouvel écusson à coudre sur mon sac à dos et bien des ampoules à crever. Allez, à demain!
juillet 2017. Santo Domingo de la Casara jusqu'à Belorado. Distance parcourue, 25 km. J'ai commencé à comprendre l'expression « faire confiance au chemin ». Ce matin, je me suis perdu. J'ai tourné à droite lorsqu'il fallait prendre à gauche. Après un moment sans voir de flèche jaune qui indique le bon chemin, moi et un autre marcheur venant de Houston qui me suivait de près, on s'est regardé en nous disant qu'on n'était vraiment pas sur la bonne voie. C'est alors que, sorti de nulle part, un habitant des environs est passé tout près de nous en voiture et nous a fait signe que c'était effectivement pas le bon chemin. Le gars de Houston parlait un très bon espagnol et a pu comprendre les explications du conducteur pour retrouver le sentier de marche. On était à peu près un kilomètre du bon endroit. Moi et l'autre pèlerin avons marché sur la voie d'accotement de l'autoroute pendant un moment pour pouvoir remettre les pieds sur le bon sentier. Une fois que ça a été fait, lui et moi avons discuté avant de se laisser. Le panorama de l'étape d'aujourd'hui était pas mal moins intéressant que celui de la veille. J'ai longé l'autoroute pas mal toute la journée. L'autre moment de mon trajet où le chemin m'a fait un cadeau est survenu pendant que je traversais un modeste quartier. Une voiture s'est engagée dans ma direction et le chauffeur s'est arrêté pour me donner une bouteille d'eau. Il m'a expliqué en espagnol que c'était un cadeau de la compagnie d'eau de source locale. J'arrivais à Belorado un peu avant 13h. Ce petit village est tellement calme et relaxant. Il a même sa propre version du Hollywood Walk of Fame. Il y a une plaque sur laquelle il y a les empreintes de mains et de pieds des acteurs Martin Sheen et Emilio Estevez. C'était pour souligner la première locale du film The Way. Ça, c'est une autre preuve que ce film-là me colle vraiment à la peau. J'ai ensuite soupé en compagnie de Frédéric, un flic de Toulouse et de ses deux filles, Morgane et Maeva. Tous les trois s'offrent des vacances père-fille jusqu'à Saint-Jacques. C'est impressionnant et je risque fortement de lui emprunter son idée lorsque j'aurai des enfants. C'est l'heure d'une autre nuit de sommeil avant de poursuivre la route. Mais juste avant, je pense que je vais prendre un moment pour soigner mes bobos aux pieds. Allez, à plus!
juillet 2017. Belorado jusqu'à San Juan de Ortega. Distance parcourue, 27 km. Autre départ à 7h15 du matin après un vrai bon déjeuner. Le temps est frais et agréable. En plus, je suis pas aussi courbaturé des cuisses que la veille. Ça, c'est encourageant. Le parcours a bien commencé en traversant les champs de blé dans la campagne. Il y a eu quelques montées abruptes dans divers sentiers, mais rien d'insurmontable. La route est devenue ennuyante par la suite en suivant un sentier entre deux murs de conifères. On se serait cru en plein parc des Laurentides. Cette journée marque aussi l'atteinte du plateau très important pour moi des 100 premiers kilomètres franchis. J'ai débouché dans le microscopique village de San Juan de Ortega à 13h. Il est constitué d'une église, d'une auberge et d'un bar. Ils s'en sont vraiment tenus à l'essentiel. L'auberge de ce soir est dans un ancien monastère rustique à souhait. J'adore. Mais j'ai vraiment eu une mauvaise surprise en arrivant à mon lit et en tirant mon bas gauche. J'ai perdu un ongle d'orteil. La veille, une ampoule avait commencé à pousser sous cet ongle et j'imagine qu'elle a tellement gonflé qu'elle a fait sortir l'ongle de son socle. J'ai ce qu'il faut pour faire un pansement d'urgence, mais heureusement que l'étape de demain se termine dans la ville de Burgos où je pourrai me procurer de meilleurs bandages. J'espère vraiment que ça n'aura pas de conséquences à long terme pouvant compromettre ma route. Ce soir en attendant, ce sera la messe à 18h, suivie d'un souper avec les moines par la suite. Là, je vous offre une petite mise à jour parce que ce soir-là, j'ai repris ma plume et j'ai écrit un passage supplémentaire dans mon journal. Vous allez voir, c'est très drôle. La journée se termine sur une note de marde. J'ai égaré l'un de mes deux tubes de crème anti-friction et mon liner de sac de couchage. J'ai passé un bout de la fin de soirée en crise de plus pouvoir profiter de ces deux articles très utiles pis qui m'ont coûté cher. Pour dépomper, je suis descendu à la réception de l'auberge pour emprunter une copie du livre The Road, écrit par Cormac McCarthy, qu'un pèlerin a dû laisser là il y a des années. Je me suis installé dans mon lit à 20h30 et j'ai lu les premières pages. Ça a fini par me calmer. J'ai fermé les yeux vers 22h et j'ai ensuite très très bien dormi. J'ai même pas eu besoin de prendre un somnifère. Allez, à plus!
8 juillet 2017. San Juan de Ortega jusqu'à Burgos. Distance parcourue, 28 km. Debout vers 6h15 du matin et départ sur la route à 7h. Le chemin dans la campagne matinale a été très agréable. Tout s'est bien passé jusqu'à Villa Fría, où les indications du chemin étaient peu nombreuses et pitoyables. Je me suis même égaré momentanément deux fois. J'ai heureusement repéré des pèlerins qui m'ont permis de me réaligner dans la bonne direction. Ensuite, cette portion de chemin industriel et peu plaisante m'a fait rencontrer un franco-espagnol nommé Francisco, qui passait par là et qui a repéré l'écusson du Québec cousu sur mon sac à dos. Il a roulé à côté de moi sur sa bicyclette sur plusieurs centaines de mètres. Nous avons parlé d'histoire et de politique. Il connaissait bien certains aspects du Québec et du Canada. Après m'être séparé de Francisco, je suis entré dans Burgos un peu passé 13 heures. Il a fallu une marche supplémentaire d'un peu plus de 5 km pour arriver à l'auberge municipale. Sur le chemin, j'ai fait un détour par une épicerie. J'ai fait le plein de bandages d'un gros litre de lait au chocolat que j'ai calé en quelques instants. Après mon arrivée à l'auberge, mes pieds m'ont donné les 1000 douleurs qu'il m'avait promis. Surtout le pied gauche avec ses deux grosses ampoules douloureuses et son ongle manquant. Il y a même une douleur temporaire à un de mes tendons qui m'a fait peur. Ça m'a fait un peu paniquer. Je suis allé prendre une douche pour chasser les blues et je me suis endormi en écoutant un podcast. Cette sieste d'une heure a été bénéfique. La douleur au tendon est disparue. J'ai traversé de l'autre côté de la rue pour m'offrir une pizza et une bière pour souper en attendant que mon linge sèche. Le resto avait un Wi-Fi performant, ce qui m'a permis d'envoyer des messages à certaines amies, de publier des photos et de prendre des nouvelles de l'Amérique du Nord. J'ai aussi discuté avec un vieux couple de Parisiens à la table voisine de la mienne. Alain et Elisabeth risquent fortement de se représenter sur ma route d'ici Santiago. Je suis ensuite allé me promener dans le vieux Burgos. C'est un endroit magnifique qui fourmille de gens et d'activités culturelles de toutes sortes. C'est l'un des très beaux endroits que j'ai visité jusqu'à maintenant. Bon, assez pour aujourd'hui. Il est presque 21h30, c'est l'heure de me préparer à aller au lit. Vivement les deux prochaines étapes qui sont de moins de 20 km chacune. C'est un petit break apprécié avant de reprendre les distances normales. À plus!
juillet 2017. Burgos jusqu'à Hornillos del Camino. Distance parcourue, 19 km. La journée a bien débuté et s'est terminée sur une note agréable. J'ai repris la route à 7h après une nuit au sommeil suffisant. En sortant de Burgos et après avoir commencé à m'aventurer dans la campagne, j'ai été accosté par une paysanne à vélo qui tenait absolument à me donner ses trucs maison contre les ampoules aux pieds. Je l'ai écouté un moment et j'ai poursuivi ma route dans les champs de blé et sur les côtes rocheuses. Je suis arrivé à Hornillos del Camino ce midi. Après avoir discuté avec quelques marcheurs, plusieurs m'ont dit qu'ils poursuivraient leur route jusqu'à une autre ville située à 11 km d'Hornillos. Pendant un instant, j'ai aussi considéré faire la même chose. Continuer de marcher 2 heures de plus ne m'aurait pas dérangé. Cependant, j'ai décidé d'écouter mon corps et lui offrir le repos nécessaire. C'est pas une course, c'est un marathon. En plus, j'ai complété avec succès l'étape du jour. Même si elle était plus courte que les autres, il n'y a aucune honte à la respecter et à recharger mes batteries pour la journée, plutôt que de rusher les choses comme le font d'autres pèlerins. Finalement, ma décision a été la bonne. J'ai établi mes pénates dans une auberge nommée Meeting Point. C'est un petit havre de paix dans un micro-village très très rustique. J'y ai retrouvé le type de Houston que j'ai rencontré sur le chemin de Santo Domingo. J'ai aussi retrouvé le duo mère-fille de San Francisco que j'ai rencontré hier à Burgos. Elles m'ont déjà surnommé Homer, en l'honneur de la patch d'Homer Simpson cousue à mon sac à dos. J'y ai passé un après-midi très relaxant à faire une sieste, un petit tour de village et en profitant du Wi-Fi performant. Pour souper, nous avons eu un charmant souper de groupe avec Paella au menu. Nous avons appris à nous connaître davantage avec nos anecdotes de voyage. Nous avons bien ri et très bien mangé. Le groupe se rapproche un peu plus. Avant de m'installer pour écrire ces lignes dans la cour de l'auberge, j'ai fait connaissance avec un couple de Belges nommés Jérémy et Perrine. Jérémy connaît très bien Montréal pour y être allé 3 fois. Ça nous a fait un sujet de discussion commun. Ah oui, avant que j'oublie, en arrêtant de manger un croissant ce matin dans un petit village, le tenancier m'a offert en cadeau un petit collier avec une médaille religieuse accrochée au bout. Il en donnait pas mal à tout le monde, mais j'ai quand même apprécié le geste. Allez, je me prépare à aller au lit. Un petit podcast et dodo ensuite. À plus!
juillet 2017. Hornillos del Camino jusqu'à Castrolleres. Distance parcourue, 20 km. Levée du corps à 6h et départ à 7h du matin. La marche s'est très bien déroulée et a duré un peu plus que 4h. J'avais un excellent rythme de 5 km à l'heure. Sur le chemin, j'ai recroisé Frédéric, le flic de Toulouse et ses 2 filles. Nous avons discuté lui et moi pendant une 20aine de minutes. Sur la route, le temps a été frais et très agréable tout le long du trajet. Je crois que c'est réellement la première journée où j'apprécie pleinement la route, puisque mes ampoules et mes problèmes d'ongles qui tombent commencent à être sous contrôle.
L'arrivée à Castroyeris a été belle affaire, avec son superbe panorama du village et de son château en ruine. J'ai débarqué dans une auberge bien sympathique qui surplombe le quartier où je me trouve, l'auberge Esteban. Je m'y retrouve avec des visages familiers avec qui les liens se tissent un peu plus à chaque jour. La connexion Wi-Fi est vraiment formidable. J'ai passé une partie de l'après-midi à envoyer des messages, des photos et à chatter avec des amis. J'ai même pu me permettre de télécharger le tout nouvel épisode du podcast Hollywood Babylon animé par Kevin Smith que j'ai écouté en me baladant dans les rues du quartier en après-midi. Après souper, quelques pèlerins et moi avons partagé quelques bouteilles de vin et des snacks. Les conversations ont été très divertissantes et très agréables. C'est déjà l'heure de me mettre au lit en prévision d'un 26 km demain jusqu'à Fromista. Allez, à plus! Juillet 2017, Castroyeris jusqu'à Fromista. Distance parcourue, 26 km. Encore debout à 6 heures après ma soirée bien arrosée de la veille, je me sentais plein d'énergie. Tellement que j'ai entrepris ma journée de marche à 6h45. Elle a commencé par la montée d'une montagne par un chemin sinueux. Une fois arrivé en haut, la vue sur les champs de blé et sur Castroyeris était à couper le souffle. Tellement que j'y ai laissé deux poignées de cendre de papa. Le gros du chemin d'aujourd'hui s'est fait dans la gravelle et les cailloux en traversant des champs de blé. Après les étapes relaxes des derniers jours, j'ai eu envie d'ouvrir la machine à fond et de reprendre mon rythme de marche digne de celui d'un missile. Je voulais chasser la roue et y aller à toute vapeur. L'expérience s'est bien déroulée, tellement que même avec quelques petites pauses de 10 minutes par-ci par-là, je suis arrivé à Fromista avec 40 minutes d'avance sur ma prédiction. Le croissant au thon et le lait au chocolat que je me suis offert pour dîner afin de me requinquer ont fait le plus grand des biens. J'ai passé un bout de l'après-midi sur la terrasse de l'auberge municipale à discuter et à boire un cocktail qui mélange vin rouge et Coca-Cola avec les autres marcheurs. Bien qu'il paraît que c'est un drink qui est très populaire en Europe, j'ai encore mes réserves là-dessus. Je me suis aussi promené dans les environs pour découvrir quelques églises anciennes et refaire le plein d'euros dans l'un des trop rares guichets automatiques sur ma route. Pour souper, je me suis offert un petit repas pour pèlerins dans un resto à côté de l'auberge. Comme le reste des pèlerins, je pense que ce soir, je me mettrai au lit assez tôt pour poursuivre la récupération et profiter de la petite étape de 20 km de demain. Allez, à plus! Juillet 2017. Fromista jusqu'à Carrion de los Condas. Distance parcourue, 21 km. Journée de marche agréable que j'ai bouclée en un peu plus de 4 heures. À la suggestion de Freya, une Danoise avec qui je voyage depuis quelques jours, je me suis installé à l'auberge de la paroisse de Santa Clara. Elle y est tenue par de jeunes religieuses et leurs bénévoles. À chaque jour, elles tiennent un petit spectacle de chant auquel les pèlerins sont conviés juste avant d'assister à la messe du soir et au repas communautaire de la fin de la soirée. J'ai profité de l'après-midi pour faire une petite sieste et me promener dans le très surprenant village de Carrion de los Condas. Son architecture est très diversifiée et ses petites rues fourmillent de vie et de passants. On peut aussi y trouver tout ce qu'on veut. J'en ai profité pour me faire un cadeau en m'offrant de nouvelles sandales à porter pour la douche et pour mes escapades dans les villages. Mon modèle que j'avais, style Jean Coutu Cheapos de bord de piscine, commençait à se décomposer rapidement. Après avoir passé une partie du début de la soirée à socialiser avec mes autres partenaires de marche, je les accompagnais à la messe des pèlerins. Après la célébration, le prêtre nous a bénis individuellement pour nous apporter courage et protection pour le reste de notre chemin. Les religieuses nous ont aussi offert une petite étoile en papier pour nous rappeler que le Camino est le chemin des étoiles et de toujours nous tourner vers elle en cas de besoin. La soirée s'est terminée en grande beauté avec un repas communautaire servi à 21h. Tous les pèlerins y ont contribué et le résultat final fut formidable et délicieux. J'y ai fait la rencontre de Marilyn, une enseignante de l'Arizona qui est venue offrir de son temps à l'auberge après y avoir séjourné pendant son Camino l'an dernier. Cette rencontre aussi fut agréable. Il y a eu une ambiance très festive dans l'auberge même bien après la fin du repas. J'oublierai pas de sitôt ce formidable passage à Carrion de los Condas. Gracias por todos. À plus! Juillet 2017. Carrion de los Condas jusqu'à Terra Dios de los Trampilleros. Distance parcourue, 26 km. Encore sur la route à 6h45 ce matin. J'ai de plus en plus tous les avantages de ces départs matinaux, qui sont de beaux levers de soleil et du temps frais pour une heure ou deux. Le trajet d'aujourd'hui avait deux éléments particuliers. Le premier, une traversée de 17 km où il y avait absolument rien qu'un paysage désertique. Pas de village et pas de magasin. Il fallait absolument bien me munir en réserve d'eau. Et le deuxième? Mes compagnons de marche et moi-même avons décidé d'ajouter quelques kilomètres de plus à notre étape pour mieux rentabiliser la journée. Notre étape de 18 km en a finalement été une de 26 km. Ça va payer à long terme en réduisant de quelques kilomètres les prochaines étapes de 30 km et plus qui s'en viennent dans les prochains jours. Nous avons donc débouché dans une auberge à Terra Dios de los Templieros. Elle est située dans un micro-micro-micro-village qui prend à peu près 8 minutes à faire le tour. Heureusement, l'auberge possède un petit dépanneur dans lequel j'ai pu faire mes emplettes pour me préparer un repas frugal pour le souper. Puisqu'il n'y a vraiment rien à faire dans ce bled, tous les pèlerins sont en ce moment dans la cour arrière de l'auberge, sous les parasols, en train de boire, manger, fumer et discuter entre eux. Tout est si simple et paisible aujourd'hui. Un agréable petit vent vient de se lever pendant que j'observe le drapeau espagnol flotter au-dessus de moi. Alors que mon seul dilemme, si simple est-il, c'est de me demander si je marche une distance de 25 ou de 32 km demain. Je crois que je vais attendre à demain pour le découvrir. Allez, à plus!
Juillet 2017. Terra Dios de los Templieros jusqu'à Casadilla de los Hermanos. Distance parcourue, un autre 26 km. J'ai très mal dormi la nuit dernière, car il faisait très chaud dans notre chambre à 8 personnes. Que ça ne tienne, j'ai entrepris la route à 7 heures en n'ayant pas vraiment une idée fixe sur quelle serait ma destination. En marchant, j'ai analysé deux ou trois options et j'ai arrêté mon chemin sur une petite localité nommée Casadilla de los Hermanos. L'avantage est qu'elle réduit ma journée de demain en direction de Mancilla de los Mules de 35 km à un plus raisonnable 24 km de marche. Je sors aussi de la petite zone de confort que j'ai bâtie avec le groupe de marcheurs avec lequel je me tiens depuis quelques jours, en prenant de l'avance sur eux, puisqu'ils semblent s'être arrêtés dans le village précédent situé à 3 km avant celui où je me trouve présentement. Ça me donne simplement l'opportunité de changer de gens qui m'entourent. La route s'est bien déroulée. Il y a juste le stretch final de 8 km qui a été un peu plus ardu au milieu du chemin très rural de Gravel et du chaud soleil du midi. Au bout de 6 km, une petite oasis avec des arbres et une fontaine est apparue de nulle part. J'ai fait la rencontre de Rim, une Tunisienne et de son copain qui faisait une pause. Une autre fille de Chicago, Terry, s'est joint à nous. Après ce petit 15 minutes de pause, j'ai repris la route pour finalement arriver à destination. J'ai été chaleureusement accueilli à l'auberge municipale par André, une sympathique vieille dame de France qui est revenue dans cette auberge pour y faire du bénévolat après y avoir séjourné pendant qu'elle a fait son propre chemin. En arrivant, j'ai aussi fait la rencontre de deux Américains, Elise qui vient de la Caroline du Nord et Francisco qui vient de Floride. En passant, ces deux-là sont en couple. Ils sont vraiment très sympathiques et amusants. Elise me rappelle autant au niveau de la personnalité que du physique Marilyn, mon ancienne coloc. La ressemblance est frappante. Tous les trois et Terry, la fille de Chicago, sommes allés souper ensemble et Rim est aussi venu se joindre à nous. Nous avons bien mangé et beaucoup rigolé. Je pense que j'aurais pas pu profiter de cette très agréable soirée dont j'avais grand besoin si j'étais resté avec mon autre groupe. Le hasard, les risques et l'audace de sortir de la zone de confort ont rapporté aujourd'hui. Allez, je vais encore profiter un peu du Wi-Fi hyper performant avant d'aller au lit en prévision du nouveau chapitre de cette aventure qui recommence dès demain matin. Bientôt moins de 300 km avant Santiago. Lâche pas, Seb. À plus!
Juillet 2017. Casadillas de los Hermanos jusqu'à Mancilla de los Mules. Distance parcourue, 24 km. Après le bel accueil de la veille, j'ai repris la route avant le lever du soleil. J'ai pris un peu d'avance sur les trois Américains. La portion du chemin que j'ai emprunté était totalement vide de pèlerins. Pendant un peu plus de 5 heures, j'ai eu la route exclusivement pour moi sans avoir personne devant moi. Ce feeling de solitude et d'être le roi des lieux est dur à battre. Rien, sauf le bruit des cigales et celui des mouches et des moustiques, venait briser le silence absolu de cette route de campagne faite d'un chemin de terre et de roches. Je me suis autorisé deux ou trois pauses pour changer mes bas et grignoter tellement que cette journée de marche était dénuée de tout stress. Puisque j'avais 3 km d'avance sur mon groupe habituel, j'ai été un des premiers à arriver à l'auberge municipale de Mancilla de los Mules, un village beaucoup plus gros et peuplé que celui de la veille. Tous les pèlerins de mon groupe habituel sont arrivés un peu après. Beaucoup d'entre eux m'ont demandé où j'étais passé la veille. Ils ont eu l'air contents de me revoir avec eux. Après m'être installé, je suis allé prendre une bière dans un resto tout près de l'auberge avec un groupe de marcheurs constitué d'Italiens, d'Américains et d'un Hollandais. La bière que j'ai reçue a été aussi rafraîchissante que la bienvenue, ainsi que toutes les autres que la serveuse a renversées par accident sur moi lorsqu'elle a perdu le contrôle de son plateau. Mais mieux vaut en rire, hein? Cette petite pause sociale a été bien divertissante et elle a remonté le moral des troupes. Après une sieste, j'ai décidé de limiter mes efforts au maximum pour faciliter la récupération de mes jambes. C'est que pendant ma marche, j'ai ressenti pas mal de douleurs au genou gauche. J'espère que c'est pas une tendinite qui commence à s'incruster. Après avoir été m'acheter ce qu'il fallait pour me faire d'excellents sandwichs au thon pour souper, je me suis badigeonné les jambes de Voltaren et je me suis mis en mode Netflix and chill dès 19h30 dans ma chambre. Yera, une marcheuse avec qui je me tiens depuis quelques jours, est même montée pour s'enquérir de mon état, puisqu'elle était surprise de pas me voir passer la soirée avec tout le groupe comme d'habitude. Après mes explications, elle m'a aussi dit qu'elle aime aussi s'offrir une petite soirée de solitude de temps en temps. J'espère que ma décision santé portera ses fruits demain pour mon arrivée dans la grande ville de Neon. Allez, c'est maintenant le temps de me mettre au lit. Mais juste avant, autant en profiter pour jouer une dernière fois du Wi-Fi pour être l'un des premiers à écrire à mon ami Maïra pour lui souhaiter le plus joyeux des anniversaires. Juillet 2017. Mancias de los Mules jusqu'à León. Distance parcourue, 18 km. Le sommeil n'est pas venu aisément la nuit dernière. J'ai peut-être eu un 3 ou 4 heures de sommeil avant que les premières alarmes commencent à sonner à 5 heures du matin. Comme d'habitude, j'ai ensuite somnolé dans mon lit jusqu'à ce que ce soit mon tour de me lever à 6 heures. 45 minutes plus tard, j'ai mis le cap vers la ville de León. Le trajet de 18 km dans les cailloux et les champs de blé a mieux été que je le pensais, compte tenu des petites inquiétudes qui commençaient à émaner de mon genou gauche. Pour pas prendre de chance, j'ai enfilé pour la première fois mon orthèse en guise de prévention. Moins de 5 heures plus tard, j'ai fait mon arrivée à León. À l'entrée de la ville, j'ai croisé Édouard, un jeune Parisien qui fait le Camino dans sa forme intégrale depuis déjà 3 mois. On a commencé à faire connaissance lui et moi depuis quelques jours, puisqu'il est dans le même groupe de marcheurs que moi. On a fait la marche dans la ville ensemble, tout en discutant d'un tas de sujets. On a même trouvé le moyen de manquer une flèche d'indication et de marcher pendant un moment dans la mauvaise direction. Au bout d'un moment, lorsqu'on a réalisé que quelque chose tournait pas rond sur notre route, nous avons brossé chemin pour retrouver la flèche jaune que nous avions ratée afin de marcher dans la bonne direction. Ouais, c'est comme ça dans les grandes villes, hein. Tu manques une seule flèche, pis t'es baisé. Maintenant de retour sur la bonne voie, Édouard m'a proposé de me joindre à lui pour trouver une auberge moins achalandée et plus tranquille que l'auberge municipale de la ville. J'ai accepté et nous avons parcouru son guide des auberges après avoir marché jusqu'à celle que nous avions choisie. On a été déçus de voir qu'elle était déjà complète. Nous avons opté ensuite pour le plan B. Ça a été toute une galère d'essayer de retrouver l'auberge. Le GPS d'Édouard a décidé de mal fonctionner à ce moment-là, ce qui nous a fait pas mal tourner en rond pendant un moment. En désespoir de cause, nous avons opté finalement pour l'auberge San Francisco, qui était située à 2 pas du chemin à prendre pour sortir de la ville le lendemain. J'aime penser que le nom de l'auberge est un genre de présage symbolique à la destination de mon prochain voyage de baseball. Une fois installé dans notre chambre à 8 lits, j'ai fait une petite sieste d'une heure avant de partir explorer le centre-ville de León. Je m'y suis promené pendant un bon 2 heures. J'ai pu visiter ses rues commerçantes, ses monuments impressionnants et même son marché aux puces à ciel ouvert. En revenant à l'auberge, j'ai proposé à Édouard de venir prendre une bière et souper en ma compagnie. Il a accepté et on s'est ensuite mis en route pour le vieux León pour se trouver une terrasse ou boire une pinte de blonde bien méritée. Une fois l'endroit trouvé et la bière servie, on s'est mis à parler de nos expériences sur le Camino et surtout de politique française. Oh boy! Ce petit Édouard de 23 ans avait bien caché le fait que c'est un ultra-conservateur de droite. L'heure suivante a donné lieu à une bonne joute oratoire entre lui et le gars un peu plus libéral que je suis. Après avoir fini nos pintes, on parle de se trouver un bar à tapas pour y souper. Je me lève et je demande l'addition au serveur avec mon meilleur espagnol. Après un instant, au lieu de nous apporter 2 factures, une serveuse nous apporte 2 autres grosses pintes de bière. Pour pas vexer personne, on a accepté de rester et de les boire. Donc, 2 pintes plus tard, on a réussi à finalement payer et à partir en direction de la zone où les restos se trouvent. Telle n'est pas notre surprise de tomber sur un groupe de pèlerins que nous connaissons et qui recherchent justement un resto à tapas. On se retrouve parmi les visages familiers. Les Italiens du dîner d'hier, la fille de Chicago et quelques autres gars et filles avec qui je fraternise depuis le début de mon périple. L'ambiance est à la fête car eux aussi semblent un peu pompettes. On débouche dans une petite place à tapas où on a droit à 1 verre de bière et à plusieurs bouchées pour un prix vraiment modique. L'Argentin, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Martin Matt, s'est chargé de nous négocier un prix de groupe avec le serveur. Peu de temps après, une Américaine de New York nommée Catherine et son ami français nommé Marc-Olivier sont sortis de nulle part pour se joindre à nous. Sans vraiment que je sache comment, je me suis retrouvé attablé en leur compagnie dans un autre restaurant quelques instants plus tard. Nous avons fait plus amplement connaissance ainsi que bien manger et bien profiter des vins blancs du resto. En cours de repas, nous avons été rejoints par du monde de notre groupe de marchands qui sont venus souper avec nous. Catherine et Marc-Olivier ont été les premiers à partir vers 23h, dû au couvre-feu de leur auberge. Les autres et moi sommes restés jusqu'à un peu avant minuit. Chose cocasse, c'est qu'au moment de régler mon addition, le serveur m'a expliqué que Catherine avait déjà payé pour moi. Finalement, deux très bons soupers dans deux restos différents m'auront juste coûté 4€ en bout de ligne. Si jamais je la recroise, je lui rendrai la politesse. Allez, il est déjà passé 1h du matin et c'est l'heure de fermer les yeux. 6h du matin approche à grands pas, après les formidables rencontres fortuites de cette soirée. Juillet 2017. León jusqu'à San Martín del Camino. Distance parcourue, 25 km. Je pense avoir été le seul à bien dormir dans la chaleur et l'humidité de la chambre de l'auberge. Malgré une nuit à près de 30 degrés à l'extérieur, le calorifère de la salle de bain marchait à plein régime. Moi, c'était définitivement chaud et humide dans notre chambre à 8 personnes. Malgré la fiesta de la veille jusqu'à minuit, cela m'a pas empêché de tout de même me réveiller à l'heure habituelle et de partir avant le lever du soleil. Ce fut pas vraiment le cas pour mes compagnons d'hier soir qui dormaient encore bien profondément tout en cuvant leur vin. Après avoir englouti une orange et une barre de protéines dans le lobby de l'auberge, je me suis aventuré dans les rues encore endormies de León pour suivre la route qui mène hors de la ville. Les nombreuses montées et descentes des côtes m'ont fait m'en faire rapidement sur mon genou. Même avec l'orthèse, j'y sentais une sensation désagréable, mais qui ne m'handicapa pas encore au point de nuire à mon rythme et mes performances. Soudainement, après une douzaine de kilomètres, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. Plus aucune douleur au genou. J'ai même retiré mon orthèse et le reste du chemin s'est fait sans aucun pépin. Ça, c'est bon signe pour demain. Pour les 10 kilomètres restants, la chaleur s'est sérieusement mise de la partie. Mes réserves d'eau m'ont été d'un très précieux soutien pour finir le chemin. Arrivé dans le petit bled de San Martín del Camino, moi et Lindsay, l'une des deux filles de San Francisco rencontrées à Burgos, avons opté pour une petite auberge avec une piscine dans la cour arrière. Après m'être installé dans le dortoir où nous n'étions que 6 personnes, le reste de la journée a été dédié au repos le plus complet, puisque San Martín est loin d'être un endroit où il y a quelque chose à visiter ou à faire. Outre faire quelques achats au magasin local et une promenade dans les rues du village après souper, tout a été très relax. Notre groupe se parlait pas vraiment, sauf quelques discussions que j'ai eues ici et là avec Lindsay et sa mère Greta. Avant de me glisser dans mon sac de couchage, j'ai été faire une petite baignade d'une vingtaine de minutes dans la piscine. Elle a été tout à la fois reposante et rafraîchissante. Une fois dans mon lit, j'ai fini de regarder un film sur Netflix et je me suis rapidement endormi. Allez, à plus.
Juillet 2017. San Martín del Camino jusqu'à Astorga. Distance parcourue, 24 km. J'ai si bien et confortablement dormi la nuit dernière. J'aurais facilement pu me réveiller en retard de plusieurs heures si les deux filles de San Francisco n'avaient pas fait un bruit qui m'a réveillé à 6h15. Avec ce petit retard sur l'horaire habituel, j'ai rapidement fait mon paquetage et déjeuné pour partir autour de 6h55. Il y a eu du changement pour la première fois depuis 2 semaines dans les panoramas. De la verdure. Et même beaucoup. C'était l'entrée officielle dans la province de la Galice. Au revoir le grenier de l'Espagne. Ces terrains plats et le blé à perte de vue cèdent dorénavant leur place aux montées et aux dénivellations récurrentes ainsi qu'aux conifères bien verts. J'ai aussi eu un autre exemple de ce que c'est de faire confiance au chemin. Après une montée abrupte de plusieurs dizaines de mètres, telle ne fut pas la surprise de tous les marcheurs de découvrir au sommet un grand espace repos aménagé par un gars des environs. Cet espace contenait des ondes d'ombre, des chaises, des coussins, de l'eau, des jus, des fruits frais en immense quantité et bien plus encore. Je me suis arrêté quelques minutes pour y déguster 3 tranches de melon d'eau juteuses et beaucoup de cerises. J'ai ensuite fait une donation au proprio des lieux en leur remerciant pour tout et j'ai repris ma route en direction de la ville d'Astorga. J'ai eu mon premier aperçu de cette belle ville du haut d'une montagne. La vue était vraiment superbe. En descendant, j'ai croisé un vieux guitariste espagnol qui m'a demandé un souvenir du Canada en échange d'une chanson. Il m'a chanté son « El peregrino canadiense » et je l'ai accompagné avec mes pas de danse. Comme récompense, je lui ai donné une pièce de 2 $ canadiens. Marché respecté. Je suis arrivé au cœur de la ville vers 12h15. Après une bonne douche, je suis sorti dîner et explorer le coin. Puisque cette ville est située en hauteur dans les montagnes, on a droit à une très belle vue de la vallée partout où on regarde. Le cachet ancestral et historique des rues et des bâtiments côtoie beaucoup d'espaces verts et de places publiques.
l'architecture est sublime. Par exemple, j'ai passé au moins 30 minutes à admirer l'infinité de détails de la façade avant de la grande cathédrale de la ville. Ce 30 minutes a été loin d'être suffisant pour tout voir dans cette fresque sculpturale grandiose. J'ai soupé assez tard dans la cuisine de l'auberge en compagnie de Myriam, une charmante marcheuse italienne. Nous avons longuement échangé sur nos vies et sur ce qui nous a amené à entreprendre le chemin de Compostelle. Je me suis mis au lit vers 22h30 en espérant pouvoir grappiller quelques heures de sommeil ici et là. Allez, à plus!
Juillet 2017. Astorga jusqu'à Ponce Baton. Distance parcourue, 25 km. Un peu après avoir entrepris ma route ce matin, je me suis senti devenir très émotif, en réalisant que je suis à une dizaine de jours d'accomplir un rêve et que je suis en train de le faire à ma manière, en y ajoutant quelques éléments symboliques qui ont une très grande importance pour moi. Même si c'est pas encore terminé, je suis fier de moi. D'être capable de bien supporter la demande d'énergie que ça requiert à tous les jours, mais aussi de faire les choses avec cœur et courage. Je porte beaucoup d'importance à ces deux choses et je suis content de les transposer ici avec moi. Pour ce qui est du trajet d'aujourd'hui, les défis de la Galice n'ont pas tardé à se manifester. Cette journée fut une longue montée dans les montagnes à travers plusieurs chemins de trail difficilement praticables. Pendant le chemin, j'ai discuté soccer de la MLS avec un gars de Seattle. J'ai trouvé l'arrivée de cette conversation aussi surprenante qu'intéressante. Je crois que c'est un signe qui est temps que je retourne voir l'impact à mon retour à Montréal. Ensuite, la montée finale en montagne a duré une bonne heure et a été épuisante. Heureusement que le temps était très frais dans la région. Enfin arrivé à destination, j'ai rapidement repéré quelques visages connus et j'ai choisi mon auberge avec eux. Le village de Ponce Baton semble tout droit sorti d'une histoire d'H.P. Lovecraft tellement il est délabré. Après une très agréable douche chaude et un bon rasage, j'ai été faire quelques achats au magasin municipal pour me faire un snack de fin d'après-midi. La soirée sera sûrement aussi relaxe que le village dans lequel je me trouve en ce moment. Allez, à plus!
Juillet 2017. Ponce Baton jusqu'à Ponte Ferro. Distance parcourue, 27 km. Bonne fête, Sébastien! Cette 32e année a définitivement commencé sur une note formidable. Dès le déjeuner, pris en compagnie de Lindsay et Greta, les filles de San Francisco, ainsi qu'avec Elise et Francisco, ils ont découvert que c'était mon anniversaire. Après les souhaits d'usage, Elise a proposé qu'on se retrouve tous en soirée pour souper ensemble et fêter l'occasion. J'ai accepté avec plaisir. Nous avons aussi convenu de s'offrir un peu de luxe en prenant un lit dans une auberge huppée à 12 € la nuit dans la ville dans laquelle notre marche s'arrêtera. J'ai quitté l'auberge à l'heure habituelle, tout juste avant le lever du soleil. Ma décision a été très payante. Puisque l'endroit où j'étais est juché dans les montagnes à 1250 mètres d'altitude, j'avais une vue imprenable sur la vallée ainsi que littéralement la tête dans les nuages. Après une quinzaine de minutes de marche, j'ai débouché sur la célèbre Cruz de Ferro, la Croix de Fer. C'est un endroit d'une grande signification sur le Camino. Les pèlerins sont invités à y déposer une pierre ou un objet personnel qu'ils ont transporté avec eux depuis le début de leur marche, dans le but de se délester symboliquement d'un point important dans leur vie avant d'entreprendre le dernier droit de quelques jours avant d'arriver à Saint-Jacques. De mon côté, j'y ai laissé quelques poignées de cendre de papa. Ainsi, sa présence restera pour toujours dans cet endroit si important du chemin. Après avoir fait ça, le soleil s'est levé. L'effet de la croix avec le lever du soleil était saisissant et a donné des photos mémorables à tous ceux qui étaient présents. Une fois après avoir repris la route, la première partie du chemin m'a offert une vue inoubliable des montagnes, des vallées et des collines de la région. C'était la première fois de ma vie que je pouvais voir une telle chose de si près. La journée m'a vraiment offert son premier cadeau. La seconde partie du chemin a été une toute autre histoire. Ça a été plusieurs heures de descente de la montagne grimpée la veille. La seule façon de le faire était via un chemin de trail bourré de rochers et de petits sentiers hasardeux à aborder. Ça m'a pompé pas mal d'énergie et ça a fait paraître ce 27 km beaucoup plus long qu'il l'était réellement. Le dernier droit vers Ponte Ferro a été plus agréable en nous faisant passer par quelques petites municipalités et en nous faisant emprunter un trottoir long de plusieurs kilomètres menant jusqu'à notre destination. Mon arrivée à l'auberge s'est faite un peu après 13h. Le luxe et toutes les commodités offertes par cette auberge de luxe détonnaient avec ce que j'ai connu lors des dernières semaines. Arrivé à ma chambre, j'ai fait la connaissance de Matthew, un Américain de la Géorgie qui partageait aussi un lit. En discutant ensemble, nous nous sommes découverts deux gros points en commun. Numéro 1, le 20 juillet est notre anniversaire. Numéro 2, lui aussi transporte les cendres d'un membre de sa famille qui répand sur sa route pendant le Camino. Pendant l'après-midi, j'ai exploré le quartier pendant 2 heures en faisant un petit arrêt pour contempler l'impressionnant château des Templiers érigé au centre de la ville. Le bâtiment était incroyable et gigantesque dans sa structure et sa conception. Vers 20h, je suis descendu de ma chambre pour rejoindre notre groupe d'Américains pour quelques verres de vino pré-repas. D'autres marcheurs se sont même joints à nous. Yera, la Slovène qui suit notre groupe depuis le début, ainsi qu'une autre Américaine nommée Stephanie, qui vient d'Oakland. Il y a même Matthew, l'autre fêté, qui s'est joint à nous aussi. Nous nous sommes établis dans un resto à tapas non loin de l'auberge qui se nomme O Cerberio. Le vin rouge, les bons plats et la joie de tous les convives ont rapidement pris place à notre table. Je me suis gâté comme il faut en me commandant un tartare de saumon et des fish and chips pour le repas que j'ai partagé avec Élise et son copain. Pour dessert, j'y suis allé avec mon classique d'anniversaire, le gâteau au fromage. Telle ne fut pas ma surprise de voir la belle Yera me l'apporter après qu'elle y ait mis un feu de Bengale dessus, tout en voyant tout le monde me chanter « Bonne fête ». Quelle soirée inoubliable qui m'a profondément touché. Ces formidables personnes qui étaient des inconnues pour moi il y a quelques semaines sont maintenant devenues des amis que je garderai près de mon cœur pour le reste de mes jours. En sortant du resto vers 23h30 avec mon groupe, j'étais un peu perplexe parce que je me souviens pas avoir payé mon addition. En retournant au restaurant pour le faire, Greta m'a subtilement fait savoir qu'elle s'en était occupée pour moi. Je l'ai remerciée de tout cœur avec un long câlin. Elle aussi est une giver dans la vie. C'était à mon tour d'accepter ce qui m'était offert. La fin du chemin me permettra peut-être de lui rendre la politesse. Ce souper exquis a pour toujours cimenté les liens diplomatiques canado-américano-slovènes. Avant de fermer les yeux pour la nuit, je les ai posés sur les vœux d'anniversaire que j'ai reçus via les réseaux sociaux. Ils m'ont fait très chaud au cœur. Mon réservoir d'énergie est maintenant redevenu plein à plus que 100% pour entreprendre les 9 prochains jours. Allez, à plus!
Juillet 2017. Pontefero jusqu'à Villafranca del Bierzo. Distance parcourue, 25 km. Même après avoir levé le coude la veille, je me suis levé frais comme une rose. Ça n'a pas été le cas de Matthew, le co-fêté qui a été malade à sa sortie du resto. Après un petit déjeuner rapide à la cafétéria de l'auberge et après avoir remercié Greta pour tout ce qu'elle a fait hier soir, c'était à mon tour de commencer ma journée de marche. J'étais encore sur un high hallucinant d'adrénaline de la veille. L'énergie n'a pas tardé à se mettre en marche dans mes jambes. J'ai avalé les kilomètres à un rythme d'enfer, tellement que j'ai laissé loin derrière moi mes compagnons de marche. La route a été très relaxe. Elle a traversé des petites localités et beaucoup de vignobles. Par la force des choses, j'avais aucune idée d'où mon groupe habituel allait établir ses pénates. Lorsque je suis arrivé à Villafranca, l'épuisement et la chaleur m'ont fait opter pour la première option qui s'est présentée à moi, l'auberge municipale. Qui sait, je me suis dit, peut-être que j'allais tomber sur quelques visages familiers à cet endroit plus tard dans la journée. Après m'être installé et être allé faire quelques achats de bouffe dans la portion commerciale du village, je suis retourné à l'auberge pour dîner. Et en bout de ligne, mon groupe semble avoir choisi un autre endroit pour passer la nuit. Mais bof, c'est loin d'être un problème. J'ai déjà passé plusieurs nuits entouré de pèlerins que je connaissais pas. Après une longue douche chaude, j'ai entendu une fille parler au téléphone dans un couloir. Elle avait un accent des plus québécois. Enfin, j'ai enfin trouvé une compatriote. J'ai discuté avec elle plus tard dans l'après-midi. Elle s'appelle Amélie et elle vient de Boucherville. Nous avons parlé des raisons qui nous ont amenés sur le Camino pendant à peu près 45 minutes. La conversation fut agréable et ça a été tout aussi le fun de rencontrer une personne de chez nous. Le reste de la journée a été très relax. J'ai exploré les rues du village, j'ai regardé Sicario sur Netflix et j'ai soupé avec Amélie et d'autres pèlerins. Par contre, la nuit a été extrêmement chiante. Le gros espagnol dans le lit en dessous du mien ronflait de manière insupportable. J'en ai tellement eu mon casque à un moment donné que j'ai pris mon oreiller, mon sac de couchage et je suis allé dormir dans une couchette en plein milieu du couloir. L'ambiance sonore a été un peu plus reposante. Allez, à plus. Peut-être après quelques heures de sommeil. Juillet 2017. Villafranca del Bierzo jusqu'à O Cerberio. Distance parcourue, 29 km.
Réveil brutal à 5 heures du matin dans les corridors alors que les puissantes lumières se sont allumées et que le vacarme du réveil des pèlerins plus matinaux que les autres a commencé. Après un moment, je suis retourné dans mon dortoir pour retrouver mon lit d'origine, puisque le gros ronfleur espagnol n'y était déjà plus. J'ai pu m'étendre et relaxer dans le noir jusqu'à 6 heures. Ensuite, la routine matinale a recommencé pour moi. J'ai pris la route à 6h40 en direction de Ocelberio, un petit village situé dans les montagnes. Après 45 minutes de marche, j'ai débouché dans un petit village où j'ai retrouvé tous les membres de mon groupe de marcheurs habituels. Après les avoir salués, j'ai fait quelque chose d'inhabituel pour la première fois depuis les 18 jours où je suis en Espagne. J'ai marché en compagnie de deux personnes tout en discutant avec elles. Waouh, hallucinant. Ça fait très changement d'être dans ma bulle en écoutant de la musique et en focalisant sur mes pensées. J'ai donc marché pendant un peu plus d'une heure en compagnie d'Élise et Francisco. La conversation fut agréable, en plus de faire avec eux l'un de mes rares arrêts café et croissant. J'ai ensuite repris la route seule pendant un long moment avant d'aborder les 7 km d'ascension de la montagne. Les chemins rocheux et abrupts ont été taxants en énergie, mais la récompense qui nous attendait au sommet valait tous les efforts déployés. Une vue indescriptible de la vallée et des montagnes avoisinantes. C'était à couper le souffle. Après mon arrivée à l'auberge, je suis allé prendre un repas bien mérité dans un resto en compagnie de quelques marcheurs de ma gang. La soupe aux légumes et le ragoût ont été très réconfortants par le temps gris et pluvieux qu'il faisait dans le village. Après une brève sieste et un peu de lavage, je suis allé prendre un verre avec ma gang pour deviser un plan pour faire une marche de nuit avec eux très tôt demain matin pour profiter de la lune et des étoiles. On verra si ça se concrétisera, mais tout le monde semble très enthousiaste à l'idée. En prévision d'un lever du corps à 4 heures demain matin, j'arrête maintenant l'écriture de ces lignes. Allez, à plus!
Juillet 2017. Au Cerbero jusqu'à Samoa. Distance parcourue, 30 km. Finalement, notre plan d'entreprendre une marche de nuit s'est concrétisé. C'est Francisco qui s'était planifié ça il y a bien longtemps. Il étudie une carte des cycles lunaires pour identifier la date précise où la lune ne serait pas proéminente dans le ciel, de façon à pouvoir percevoir encore mieux les étoiles, les planètes, la Voie lactée et même les satellites qui gravitent autour de la Terre. Il a parlé de son projet à seulement quelques personnes de notre groupe et à sa grande surprise, l'idée a fait boule de neige dans tout notre groupe de marcheurs. Après de brefs moments de sommeil, nous avons finalement été 14 personnes à sortir du lit à 3h40 du matin pour rapidement nous habiller chaudement et faire notre paquetage, sans trop faire de bruit pour ne pas réveiller tous les autres pèlerins encore endormis du dortoir. À 4h10, nous étions tous dans le noir, à l'extérieur de l'auberge et prêts à partir pour notre aventure nocturne. J'ai enfin pu utiliser à son plein potentiel ma lampe frontale. J'ai donc pris les devants de notre caravane en étant celui qui mène le groupe en avertissant tous les autres marcheurs derrière des roches sur le chemin, des racines dangereuses, des montées et des descentes abruptes. Je me suis aussi fait un devoir de garder l'œil bien ouvert pour ne rater aucune flèche jaune d'indication. À 6h du matin, le chemin nous a fait un autre cadeau au moment où le jour a commencé à montrer ses premières couleurs. Arrivé au sommet d'une côte exigeante à monter, nous avons découvert qu'un petit restaurant situé juste au sommet venait d'ouvrir ses portes pour la journée. Nous avons tous déposé nos sacs à dos et nos bâtons de marche pour entrer à l'intérieur et nous avons commandé des cafés au lait ainsi que des croissants matinaux. Nous avons ensuite tous positionné nos chaises sur le bord de la falaise, juste à côté du café, qui nous offrait un point de vue parfait sur l'horizon. Tout en discutant, en riant et en se réchauffant avec nos cafés, nous avons patiemment attendu le lever du soleil. Lorsqu'il s'est finalement pointé, nous avons profité de ce moment en silence pendant que « Here Comes the Sun » de George Harrison jouait sur l'un de nos téléphones. Après avoir profité de la beauté des milliers d'étoiles et de la Voie lactée au-dessus de nos têtes pendant la nuit, le jour nous a ensuite fait profiter de ses premières merveilles. Nous avons immortalisé le moment en prenant plusieurs photos de notre groupe que j'ai baptisé « Les guerriers de 4 heures du matin ». Le reste de la journée de marche a demandé bien de l'endurance physique car elle a été longue et demandante. La route a commencé à être prise d'assaut par ces pèlerins qui ne font que les 100 à 150 derniers kilomètres. J'ai principalement marché en compagnie de Carlos, l'Argentin, et de Francisco, de la Floride. Nous avons beaucoup discuté de musique classique avant que Francisco nous fasse un long et passionnant exposé oral sur les différents courants musicaux classiques et leurs principaux compositeurs. Le gars est vraiment très passionnant, et je prédis qu'après sa carrière de musicien, il finira par enseigner l'histoire de la musique dans une grande école. Nous avons enfin atteint le village de Samoa après 13 heures, et complètement à bout de nos énergies. Après m'être enregistré à l'auberge située dans un monastère, je suis allé dîner avec quelques marcheurs de mon groupe. J'ai payé à tous une bonne bouteille de vin blanc que nous avons partagé. Après dîner, j'ai rejoint un autre groupe pour une petite saucette dans la rivière derrière le monastère. Très froid, mais très agréable comme moment.
En soirée, nous sommes retournés au même restaurant pour souper tous ensemble, afin de sceller sur une note agréable cette journée exceptionnelle pour l'esprit de groupe et pour tous les souvenirs qu'elle m'a laissés. Allez, à plus!
Juillet 2017, Samoa jusqu'à Mercadoaro, distance parcourue 31 km. Autre journée consécutive de plus de 30 km. C'est exigeant, mais c'est faisable. L'avantage, c'est que ça construit mon endurance à franchir cette distance à pied en prévision des deux dernières journées en direction de Finistère. Après la longue marche de groupe d'hier, tout le monde du groupe a eu envie d'être en mode solo aujourd'hui. Nous nous sommes donné rendez-vous à notre auberge en début d'après-midi, mais d'ici là, c'était chacun pour soi. Je ne m'en suis pas trop plaint. Ça m'a donné l'occasion de renouer avec la musique de mon lecteur MP3 ainsi que de pouvoir reprendre mon rythme normal de marche. Ce matin était différent des autres côté météo. L'éternel soleil de l'Espagne auquel j'ai droit depuis les 22 derniers jours a cédé sa place aux nuages gris et à la brune. La marche dans les sentiers en forêt et dans les rues des petites localités fut sans histoire. J'ai croisé plusieurs membres de mon groupe qui marchaient pas aussi vite que moi, ainsi que plusieurs groupes d'étudiants et de camps d'été qui viennent parcourir à pied les 150 derniers kilomètres du chemin. En parlant de ça, environ une demi-heure avant l'arrivée à l'auberge, j'ai croisé la balise indiquant qu'il ne reste plus que 100 km à parcourir avant d'arriver à Saint-Jacques. J'ai immortalisé ma présence avec une photo. Je suis très heureux et fier d'avoir atteint cette étape. J'ai très hâte de découvrir ce que le dernier droit me réserve. Arrivé à notre douillette auberge, j'ai pris une bière avec ma gang pour relaxer en leur compagnie. Après souper, nous nous sommes installés dans le jardin pour siroter du vin, parler et écouter de la musique. En m'étouffant dans une couverture, j'ai offert à Yera un long massage de pied que cette jeune Slovène a grandement mérité. Il est déjà 22h30, c'est maintenant l'heure de dormir dans un lit qui me semble extrêmement confortable. Allez, à plus!
Juillet 2017, Mercadoaro jusqu'à Palas del Rey. Distance parcourue, 28 km. En effet, le lit était fortement confortable. J'y ai dormi comme une bûche. Quelques kilomètres après le début de ma marche matinale, j'ai rejoint mon groupe dans le village de Porto Marine pour déjeuner. J'ai ensuite repris le chemin pour un bon moment, tout en discutant et en rigolant avec Elise, Lindsay et Francisco. Après un peu plus de 5 heures de marche dans la chaleur, nous avons atteint Palas del Rey. Nous avons opté pour l'auberge municipale située à 500 mètres du commencement de la ville pour éviter la congestion des auberges due au très gros nombre de ces touristes qui prennent d'assaut le chemin pour les 100 derniers kilomètres. Il commence à vraiment en avoir beaucoup. Après avoir mangé un burger pour dîner avec mes compagnons de marche de la journée, je me suis glissé dans mon lit pour ma sieste habituelle d'une heure et demie. À mon réveil, j'ai constaté que ma gang avait envie d'essayer une nouvelle formule pour souper, celle du repas communautaire. Un potluck sans trop de prétention, mais agréable à partager. En compagnie de plusieurs personnes, je me suis rendu en ville pour trouver une épicerie pour y faire l'achat de nos produits. En chemin, j'ai fait la rencontre d'Alexis, une jeune galloise qui a marché en compagnie d'Élise et Lindsay plus tôt dans la journée. J'ai cru comprendre, revenant d'elle, qu'Alexis leur a confié qu'elle était atteinte d'une maladie importante qui est dans sa seconde phase. Ça m'a fait plaisir de me présenter à elle et de l'inviter à se joindre à nous tous pour souper. Elle était surprise, mais elle a accepté mon offre sans hésitation. Après une vingtaine de minutes, nous sommes ressortis tous ensemble de l'épicerie avec de la laitue et des légumes pour une salade en entrée, 8 bouteilles de vin rouge, des puddings au chocolat et des biscuits Oreo pour dessert. Ma contribution au repas était le plat principal, sous forme de pâte à la sauce rosée, au prosciutto et aux olives noires. Notre plan pour la soirée était génial, jusqu'au moment d'arriver dans la cuisine de l'auberge. Contrairement à beaucoup de cuisines des auberges dans lesquelles je suis resté, celle de Palas del Rey n'était équipée que d'une seule casserole et d'un seul chaudron. Le pire, c'est qu'un groupe de scouts et un autre de voyageurs italiens convoitaient aussi ces instruments de cuisine. Au final, les scouts et les Italiens sont passés avant nous. Lorsque ce fut enfin à mon tour d'y avoir accès, il était déjà passé 21h. Ce fut donc une course contre la montre pour moi afin de cuisiner les pâtes et les servir à tous avant que les lumières de l'auberge se ferment automatiquement à 22h. Stéphanie s'est occupée de la salade et, en compagnie d'un Français nommé Aurélien, je me suis occupé du plat principal. Nous avons tous été servis à 21h45. Pari réussi, mon Seb. Cependant, nous avons tous dû prendre notre dessert dans le noir, faute de temps. Après un petit vino de fin de soirée avec les potes, je me suis mis au lit un peu avant 23h.
Je me suis endormi inquiété par une douleur que je ressens depuis hier soir au niveau d'une de mes dents de sagesse. C'est le genre de douleur que je connais bien et puis qui annonce qu'il est temps de la faire extraire au plus vite pour éviter plusieurs autres journées de douleur intense. Pourquoi il fallait que ça me tombe dessus maintenant, alors que je serai pas de retour à Montréal avant le 7 août? J'ai pas besoin de ça pour venir gâcher la fin de mon voyage alors que je suis si près de mon but. On verra si les nuits vont arranger les choses. Allez, à plus.
Juillet 2017. Palace del Rey jusqu'à Riva d'Izo. Distance parcourue, 25 km. Ouch! Après quelques heures de sommeil parmi les ronfleurs, mon problème de dents de sagesse qui pousse ne s'est pas apaisé pendant la nuit. Il a même empiré. Dès que je bougeais la joue droite, la douleur se faisait sentir. J'ai même dû prendre une Advil pour calmer la douleur avant d'entreprendre ma journée de marche au petit matin. Alors que je traversais une longue route en ligne droite et en sentant l'Advil faire légèrement effet, je me suis surpris à faire une demande spéciale au soi-disant karma du chemin afin qu'il intercède pour moi en ne laissant pas ce stupide problème de dentition gâcher les derniers jours de mon voyage ici. Eh bien, chers auditeurs, je vous avise tout de suite que vous croirez absolument pas les prochaines lignes que je vais vous lire. Une trentaine de minutes après avoir formulé ce souhait intérieurement, j'ai senti un drôle de liquide couler dans ma bouche. Après un bref examen, un petit bout de ma dent de sagesse a percé ma gencive, ce qui a crevé l'endroit douloureux et très enflé de ma gencive, d'où la présence de ce liquide dans ma bouche. Plus les heures suivantes passaient, et plus la douleur s'estompait pour bientôt ne plus me déranger du tout. Ok, je suis désormais un croyant de ce que beaucoup appellent l'esprit du Camino. Merci pour tout. Peu de temps après, un autre de mes problèmes s'est réglé de lui-même. L'un de mes écouteurs de lecteur MP3 qui était brisé s'est soudainement remis à fonctionner à la perfection pour enfin me permettre de réentendre ma musique en stéréo. Décidément, ce qui veille sur moi ici a soudainement décidé que c'était mon jour de chance aujourd'hui. Je peux pas être plus comblé que ça dans la soudaine résolution de mes first world problems. La route de 25 km s'est bien déroulée. J'ai à nouveau rencontré Frédéric, le flic de Toulouse, et ses deux filles que j'avais pas vues depuis plusieurs jours. Nous nous sommes brièvement salués, changés de bons mots avant que je reprenne de l'avance sur eux. Dans les derniers kilomètres avant la fin de l'étape, il a fallu que je fasse beaucoup de slalom entre les très nombreux touristes des 100 derniers kilomètres, comme je les appelle. Ils sont composés de groupes de camps de vacances, de scouts, de familles, de cyclistes du dimanche, et de bien des gens avec des gros culs dans leurs pantalons de sport trop moulants. Rien à voir avec les vrais pèlerins endurcis qui traversent le Camino depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces faux pèlerins commencent à causer des problèmes en réservant toutes les chambres d'auberge et d'hôtels, ce qui cause des pépins de disponibilité pour les marcheurs présents sur les routes depuis longtemps. Lorsque je suis arrivé en compagnie de Lindsay à Riva d'Izo, plus aucune auberge, outre la municipale, n'avait de place disponible. En parlant de l'auberge municipale, un large groupe d'ados en camp d'été avait déjà commencé à prendre possession des lieux. Comme c'était la seule option que notre groupe avait pour se loger, ça a inquiété Lindsay, car plusieurs membres de notre groupe avaient beaucoup de retard sur elle et moi, et l'auberge ne nous permettait pas de payer en avance pour eux en attendant leur arrivée. Pour ne pas prendre de chance de mon côté, je suis allé me sécuriser un lit, tandis que Lindsay a communiqué avec tous les autres pour leur dire de se grouiller. Elle et moi avons ensuite été prendre un rafraîchissement au bar voisin de l'auberge en attendant les autres. Au final, tout notre groupe a pu se procurer une place pour la nuit à l'auberge municipale. J'ai passé le reste de la journée plutôt tranquille dans mon coin après avoir été manger une friandise glacée avec Elise, Greta, Francisco et Stephanie. J'ai ensuite fait une sieste, pris une douche, soupé et écrit dans mon journal. Je me suis ensuite mis au lit vers 21h30 en prévision de la journée du lendemain. Allez, à plus!
Juillet 2017. Riva d'Izo jusqu'à Opedruzo. Distance parcourue, 32 km. J'ai pris la route un peu plus tôt aujourd'hui, à 6h30 pour être plus précis. J'ai croisé Frédéric et sa famille quelques minutes après mon départ dans le noir. On s'est salués et j'ai pris ma vitesse de croisière. Mon groupe et moi nous sommes donné rendez-vous à l'auberge municipale de Opedruzo, située 25 km plus loin. Encore une fois, la route est bourrée de ces touristes des 100 derniers kilomètres. Après avoir remonté le peloton jusqu'à Elise et Lindsay, je me suis arrêté pour prendre un croissant au chocolat et un rafraîchissement à leur compagnie, en attendant les autres membres de notre groupe.
Je suis ensuite reparti le premier pour boucler les 4 derniers kilomètres pour atteindre Opedoso. Là-bas, m'attendait une calisse de mauvaises surprises. Devant la porte de l'auberge municipale se trouvaient deux gigantesques groupes de scouts qui attendaient pour entrer. La file d'attente était interminable. Ça ne regardait pas bien pour les chances de ma gang et moi d'obtenir un lit dans celui qui constituait notre seule option d'hébergement pour la nuit. Les 9 autres membres de la gang sont venus me rejoindre dans la file d'attente pendant les 45 minutes restantes avant l'ouverture des portes. Pour nous aider à patienter, Yera et Greta sont passés à l'épicerie nous chercher des snacks et de la bière. À 13h, les enregistrements à l'auberge ont commencé. Plus de 30 minutes plus tard, ce fut à notre groupe de rentrer. Seulement pour se faire annoncer qu'il ne restait plus qu'un seul lit disponible. Ces enfoirés d'ados de scout avaient monopolisé les 120 lits disponibles. Un sentiment désespéré envahit notre groupe. Notre seule option de logement n'était plus disponible. Nous étions abattus. Mais c'est amusant. L'optimiste que je suis sentait que tout n'était pas encore joué. Que quelque chose de bien allait nous tomber dessus pour régler notre pépin. Et c'est exactement ce qui s'est passé 15 minutes plus tard. Greta, notre maman spirituelle dans ce voyage, a trouvé sur Booking.com un hôtel ayant le nombre de nids nécessaires pour nous recevoir. Il se trouvait à 10 km de notre position, à Lavacola, l'endroit exact où j'avais prévu m'arrêter le lendemain. Comme le hasard fait bien les choses. Greta a finalisé la réservation sur sa carte de crédit et Francisco a sorti son meilleur espagnol pour téléphoner à l'hôtel pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème à nous accueillir. Notre groupe était soulagé. Avant de partir, la petite Terry, la fille de Chicago, est arrivée à l'auberge municipale et a pu obtenir le dernier lit restant. J'étais si content pour elle que je l'ai serrée dans mes bras. C'est que les bad luck s'en prennent à elle depuis les derniers jours. Elle a été victime de nombreuses auberges complets et de morsures de punaises de lit. Enfin, une bonne chose lui arrive. Pour célébrer la trouvaille miraculeuse de notre hôtel, nous sommes allés dîner dans une pizzeria avant de prendre d'assaut les 10 km restants. J'ai marché la distance en compagnie de Lindsay et d'Elise, tout en écoutant de la musique avec elles. Arrivé à Lavacola dans notre hôtel, je me suis installé dans une chambre triple avec Stephanie et Richard. Nous avons pu y prendre notre douche et y faire notre lavage. À 20h, tout le groupe est descendu dans le chic resto de l'hôtel pour ce qui était ultimement notre dernier souper de groupe du voyage. Toute la gang avait prévu entrer à Saint-Jacques le lendemain, tandis que mon arrivée, eh bien, je l'avais prévue le 29 juillet. Bon, chers auditeurs, auditrices, il faut que je vous donne un peu de contexte. Pendant ma marche, eh bien, je me suis surpris à avoir un petit fantasme, celui d'arriver à Saint-Jacques le 29 juillet, un an jour pour jour après la journée précise du décès de mon père. Je me suis dit que ben ça pourrait remplacer le souvenir du pire jour de ma vie par un souvenir qui est probablement un des plus beaux jours de ma vie. Et sur le chemin, plus on accumulait les kilomètres et plus je voyais que ce petit scénario-là devenait possible. Le 28, eh bien, je me suis dit que j'allais faire le pas dans cette direction-là et que j'allais arriver le 29 à Saint-Jacques-de-Compostelle pour commémorer un peu le décès de mon père. Pendant le souper, j'ai annoncé à ma gang ma décision. Le repas en leur compagnie a été agréable et divertissant comme d'habitude. Ce groupe-là et toutes les personnes qu'ils forment vont me manquer sur le reste de ma route. Il est maintenant presque 23h et il est temps de me mettre au lit. J'ai promis à tout le monde de descendre les saluer à 5h30 du matin avant leur départ pour Santiago. Allez, à plus.
Juillet 2017. Journée de repos à Lavacola. Distance parcourue, 10 km. Comme je l'ai promis, je me suis levé à 5h, en même temps que Stephanie et Richard. Après qu'ils aient fait leur pactage, je les ai accompagnés jusqu'au lobby où attendaient déjà tous les autres. Je leur ai tous dit au revoir et buen camino de manière individuelle, tout en les remerciant sincèrement pour tous les bons moments passés en leur compagnie ces dernières semaines. Ma route n'aurait pas été la même sans eux. Je me serais pas vu être en solitaire tout le long comme lors de mes premières journées ici. Certains d'entre eux avaient le cœur gros que je sois plus avec eux, mais ils connaissaient et comprenaient la raison derrière ma décision. Après leur départ, je suis retourné à ma chambre pour prendre quelques heures de sommeil de plus. Une chose dont j'ai pas pu profiter depuis la fin du mois de juin. J'ai quitté ma chambre à 10h et je me suis installé dans le lobby de l'hôtel pendant une heure pour y faire mes réservations d'auberge pour mes séjours prochains à Finistère et Madrid. J'ai ensuite pris mon pactage et j'ai marché 10 km aller-retour jusqu'à Monte de Gozo, un petit village situé à 1 heure de Santiago, d'où on peut y observer la ville de loin. Arrivé là, j'ai pris quelques photos en plus d'une petite collation. J'ai ensuite pris le chemin inverse pour revenir à l'hôtel. Je me sentais bien et serein. J'ai croisé plusieurs visages familiers que j'ai connus tout au long des dernières semaines.
nous nous sommes reconnus et salués, conscients que nous avons tous marché dans les mêmes routes et dans les mêmes pas pour arriver jusqu'ici. La soirée est à présent tranquille. J'ai été au magasin pour m'acheter des provisions pour me faire à souper. J'ai aussi eu des petites conversations sur Facebook avec Marc-Olivier et Alexis, pour aussi leur dire au revoir, puisqu'ils ont déjà atteint Saint-Jacques hier et aujourd'hui. Après l'écriture de ces lignes, je vais m'offrir une bonne douche chaude, un rasage et un peu de Netflix avant le lever du corps à 6h demain matin. Je prendrai la route comme d'habitude à 6h45 pour boucler les 10 derniers kilomètres avant mon arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est maintenant mon tour de vivre pour vrai cette expérience. Après presque un mois de marche, il est temps d'arriver à destination et de voir si la sensation d'accomplir ce rêve est comme je me suis si souvent imaginé lors des dernières années. Je suis prêt. Prêt comme jamais je l'étais auparavant dans ma vie. Allez, à plus.
Juillet 2017. Lavacola jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Distance parcourue, 10 km.
Comme prévu, levé du corps à 6h après une nuit de sommeil très reposante. Je suis surpris que l'anticipation du lendemain m'ait pas fait passer une nuit blanche. Après avoir rassemblé mes affaires et fait mon paquetage, j'ai quitté l'hôtel à 6h30. Ça m'a laissé un 15 minutes pour m'offrir un café au lait et un croissant au chocolat en guise de déjeuner des champions au petit resto du centre de la ville. Après avoir fait le plein de sucre et de caféine, j'ai mis le cap vers ma destination. Ma marche matinale s'est faite dans le brouillard et dans la brume. J'avais la route pour moi tout seul, aucun autre pèlerin devant ou derrière moi pendant des kilomètres. J'ai fait un petit stop à Monte de Gozo, le même petit village où je me suis rendu hier en après-midi. Cette fois-ci, j'ai pu prendre le temps nécessaire pour admirer l'énorme monument dédié au pèlerinage de Santiago, ainsi que pour observer les objets personnels que les pèlerins du passé ont laissés au pied du monument. Après avoir fait le vide pendant quelques instants, j'ai repris la route pour amorcer mon approche finale vers Santiago. Les 5 derniers kilomètres ont été spéciaux pour moi. À chacun des pas que je faisais, un souvenir d'une des conversations que j'ai eues au cours des dernières années dans lesquelles je confiais à un proche ou à un ami mon projet d'un jour venir marcher jusqu'ici me revenait en tête. Je me remémorais aussi les moments qui ont mené jusqu'ici. Le moment où j'ai acheté mon sac à dos avec Catherine il y a 2 ans. Celui où j'ai été chercher ma crédentiale chez la tienda en janvier 2016. Et celui où j'ai annoncé à Nancy et Steve ma ferme intention de prendre ce congé du travail de 40 jours. Ces moments et de très nombreux autres me sont tous revenus en tête à mesure que la distance entre moi et Santiago rétrécissait. Au bout de 2 heures, je suis finalement arrivé aux portes de la ville. Il ne me restait plus qu'à parcourir la distance restante pour arriver jusqu'à la cathédrale, située dans la vieille partie de la ville. C'est là où je me suis arrêté, que j'ai sorti mon lecteur MP3 et que j'ai choisi une musique de circonstance pour m'accompagner jusqu'à la cathédrale. Ouais, un peu cliché, mais écoutez, c'est mon voyage, c'est moi qui décide de la musique. Après une quinzaine de minutes, j'ai atteint pour vrai le lieu que tous les pèlerins ont pour objectif d'atteindre. Il était précisément 9h04. Après avoir passé de longues minutes à observer la cathédrale dans la grande place publique juste devant, j'ai vu des visages connus commencer à aussi y faire leur arrivée. Entre autres, Frédéric et ses 2 filles. Ensuite, ils se sont donné la mère de toutes les accolades après avoir franchi en famille 800 km à pied. Cette petite famille que j'ai côtoyée de près et de loin pendant tout le mois mérite maintenant tout mon respect. Je me suis ensuite mis à la recherche du bureau d'émission des Compostelas, ce certificat en latin qui officialise que j'ai parcouru au moins les 100 derniers kilomètres pour arriver jusqu'ici. Sur ma route, je suis tombé avec surprise sur Tess et Andreas, 2 membres de ma gang de marcheurs. On s'est serré dans nos bras et ils m'ont félicité pour mon arrivée ici. Eux aussi étaient à la recherche du même endroit que moi. Nous sommes tous mis en route ensemble pour trouver l'endroit que nous cherchions. Quelques coins de rue plus loin, une autre agréable surprise m'attendait. Nous sommes arrivés face à face avec Lindsay, Greta et Richard qui prenaient une marche matinale sous la pluie. On s'est tous donné de longs câlins, car nous étions tous certains de ne plus jamais nous revoir. Après une petite discussion, Greta nous a indiqué la direction du bureau des Compostelas, où nous nous sommes rendus vers 9h45. Nous avons pu éviter le rush intense du reste de la journée en raison de l'énorme quantité de gens qui se rendent là à tous les jours. Après 1 heure de file d'attente, j'ai pu obtenir sans difficulté ma Compostela. Voilà un autre diplôme que je suis sacrément fier d'ajouter à ma collection. En sortant de là, je suis allé déposer mes affaires en consigne pour me diriger à toute vitesse à la cathédrale pour assister à la fameuse messe des pèlerins. L'intérieur de la cathédrale est impressionnant, tout comme le nombre de personnes qui assistaient à la cérémonie. Par chance, en arrivant 30 minutes d'avance, j'ai pu me dénicher une place debout tout près de l'endroit où se tenait le service. J'ai même eu la chance de voir le fameux encensoir se faire balancer, une chose qui se fait de plus en plus rare ces temps-ci.
Après le service, j'ai été prendre possession de mon nid à l'auberge et j'ai partagé mon expérience sur les réseaux sociaux. Une formidable vague d'amour et de bons mots n'a pas tardé à venir jusqu'à moi. Elle m'a fait très très chaud au cœur. Encore dans un rush d'adrénaline formidable, je suis sorti me promener dans les rues bondées de gens. Il y a une telle effervescence dans cette ville, c'est fou. J'ai été manger un morceau avec Aurélien et ses deux amies portugaises. Ensuite, je suis retourné à l'auberge me doucher, me changer et passer à l'épicerie pour prendre ce qu'il me faut pour faire un repas santé. Au milieu de ma délicieuse salade verte aux pommes, j'ai eu un message de Lindsay qui m'invitait à venir souper avec elle, Richard et Greta dans une trentaine de minutes. J'ai accepté avec plaisir. Nous nous sommes retrouvés devant la cathédrale à 20h30 pour ensuite partir à la recherche d'un resto. Nous avons passé le repas à discuter de nos moments favoris du voyage et de ce que nous réserve les prochains jours. Nous nous sommes fait nos derniers adieux vers 22h30, en prenant quelques photos pour immortaliser notre ultime moment ensemble avant la dissolution finale de notre groupe de marcheurs. Ce moment a été très important pour moi. Je l'oublierai jamais. J'ai ensuite mis le cap vers mon lit pour une nuit de sommeil plus que méritée. Allez, à plus.
Juillet 2017, journée de repos à Compostelle, distance parcourue, 15 km. Quel luxe ça a été de pouvoir dormir jusqu'à 9h ce matin. L'auberge que j'ai pris pour ces deux jours à Santiago est heureusement du type où les lumières ne s'allument pas à 6h du matin et où ils ne vous foutent pas à la porte à 8h. Après un réveil en douceur et un petit déjeuner frugal, je me suis mis à la besogne dans mon planning de la journée. Parce qu'avec moi, une journée de congé est jamais vraiment passée à rien faire. Mon premier arrêt était à la station de train pour me dénicher mon billet pour Madrid pour vendredi prochain. Ensuite, direction quartier touristique pour acheter des petits cadeaux et souvenirs pour moi et ceux à la maison. J'ai aussi pu trouver un endroit pour m'acheter de nouvelles paires de bas, puisque mes trois commencent à avoir des trous qui résistent à mes réparations. L'autre étape est de trouver le chemin du Camino qui mène en direction de Finistère. Ça n'a pas été très dur de le retrouver. Les flèches jaunes qui montrent la bonne direction sont situées à deux pas de mon auberge. J'ai pris une petite marche pour me donner une meilleure idée de la route à suivre. J'ai aussi croisé ce gars de la République tchèque qui avait oublié ses souliers à Castrojeriz il y a quelques semaines. Nous avons discuté un instant avant que je le laisse en lui souhaitant bonne route jusqu'à Finistère. Après une petite sieste en début d'après-midi, je suis retourné me promener dans les différents quartiers de Santiago. Cette ville est tellement plus branchée et moderne que je m'y attendais. La découvrir est vraiment un plaisir. J'ai terminé cette troisième marche de la journée en commandant un sac de churros au kiosque d'une fête foraine. Ils étaient tout juste sortis de la friteuse et incroyablement délicieux. Rien à voir avec les merdes qu'ils vendent chez El Rey del Tacos au marché Jean Talon. En repassant par la grande place de la cathédrale pour regagner mon auberge, j'ai rencontré Edouard et Michael, les deux avec qui j'ai fait la fiesta à Léon il y a déjà quelques semaines. On s'est parlé de nos plans des prochains jours et on s'est chaleureusement salués pour une dernière fois avant que je reparte. Après souper, j'ai pris la soirée très relaxe. J'ai rédigé mon journal et pris le temps d'y écouter un épisode de Rick and Morty pour découvrir ce dessin animé dont tout le monde parle. Ce fut ensuite le moment d'éteindre la lumière vers 22h30, en prévision de la reprise des réveils à 6h du matin. Allez, à plus!
Juillet 2017. Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Villa Serio. Distance parcourue, 32 km. Comme d'habitude, j'ai pris la route à 6h45 en direction de Finistère pour les trois prochains jours. 88 alléchants kilomètres m'attendent pour cette portion bonus de marche. L'étape de 20 km d'aujourd'hui devant m'amener à Negrera n'a pas été suffisante. J'ai atteint cette petite ville un peu avant 11h. Après avoir acheté un petit repas à l'épicerie, j'ai eu envie de reprendre ma marche pour quelques heures supplémentaires afin d'enlever des kilomètres sur l'étape normale de 31 km qui m'attend demain. Ça m'a fait beaucoup de bien de marcher seul et à mon rythme après la dernière journée de repos d'hier. Outre les 5-6 pèlerins que j'ai croisés, j'ai eu la route pour moi tout seul. Fini le trafic avec les touristes des 100 derniers kilomètres. Après un peu plus de 2 heures de marche supplémentaire, j'ai fini ma journée dans une petite bourgade nommée Villa Serio, à 12 km de Negrera. J'ai pris un lit dans une charmante auberge, la Casa Vela. Elle est bâtie dans un immense chalet sur deux étages avec beaucoup de cachets rustiques. C'est un endroit superbe et réconfortant. Le couple de propriétaires qui s'occupe de l'endroit ne parle qu'espagnol. Je pensais au premier regard être le seul francophone sur les lieux, mais finalement, c'est loin d'être le cas. Deux personnes de Strasbourg et une famille de France sont arrivées un peu après moi. Après souper, j'ai eu une très agréable conversation avec trois pèlerins chinois. Nous avons ensuite regardé le superbe coucher de soleil juste devant l'auberge.
Allez, il est presque 22h, l'heure de me mettre au lit approche. J'ai déjà hâte à la suite de mon aventure demain. À plus!
Premier août 2017. Villa Serio jusqu'à C. Distance parcourue, 37 km. J'ai quitté Villa Serio avant le lever du soleil en compagnie d'une marcheuse allemande de Hambourg. Elle a logé dans la même auberge que moi la nuit dernière. Nous avons discuté tout en marchant dans la noirceur et le brouillard pendant une trentaine de minutes avant de se séparer plus tard. J'ai marché d'un très bon pas pendant toute la journée. Je suis arrivé comme hier à la fin de l'étape officielle vers 11h. Et tout comme hier aussi, j'ai décidé d'ajouter quelques heures à ma marche. J'avais prévu faire 2 heures de plus pour ensuite m'arrêter dans un village quelque part. Mais le Camino en a décidé autrement. J'ai pénétré dans un autre no man's land qui s'étalait sur un tronçon de 15 km avant de rejoindre toute autre forme de civilisation. Après plus de 2 heures de marche dans cet endroit sous le chaud soleil de l'après-midi, j'ai aperçu, sorti de nulle part, une aire de détente. En y entrant pour faire une pause et manger une orange, j'ai rencontré la marcheuse allemande de ce matin qui se prélassait au soleil telle une sirène. J'ai aussi aperçu une autre marcheuse d'un tout autre type. Elle était assise près de moi tout en surveillant ses deux compagnons de marche qui jouaient dans un petit champ. 2 chevaux noirs. Cette marcheuse faisait le Camino à dos de cheval. Après avoir observé les bêtes brouter de l'herbe pendant un moment, j'ai mis le cap vers la sortie de ce no man's land débouchant sur le village côtier de C. Après ces 3 heures à marcher dans les chemins forestiers, l'océan Atlantique a commencé à apparaître à l'horizon. Une fois sorti de la forêt, la vue de la côte était à couper le souffle. Je me suis arrêté pour prendre quelques photos du panorama. 37 km depuis le début de ma journée m'ont fait finir ma route dans une petite auberge de C. Le gros avantage de cet effort supplémentaire est qu'il ne me reste plus que 12 km à parcourir jusqu'à Finistère, au lieu des 34 qui sont généralement prévus. Après quelques moments de repos bien mérités à l'auberge, j'ai exploré le centre-ville de C. J'ai été faire un tour à la plage. De partout dans la ville, on y entend le son des vagues et le cri des goélands. Un peu plus loin dans mon exploration des environs, j'y ai fait une découverte miraculeuse. Un cinéma! Situé au 2e étage d'un centre d'achat à 5 minutes de mon auberge, se trouve un petit ciné de 3 salles, tout comme dans le temps où j'allais à celui du centre Eaton avant qu'il ferme ses portes il y a bien des années. Enfin, après un peu plus d'un mois d'abstinence, j'allais enfin pouvoir avoir une soirée aux vues. Après avoir soupé d'un empanadas et d'un fruit sur la place publique, j'ai pris un billet pour la représentation de 20h de El Fantastico Spider-Man. Ou en version originale, Spider-Man Homecoming de Marvel. Ça m'a permis de repratiquer mon écoute de l'espagnol. À ma grande surprise, j'avais la salle pour moi tout seul. Faut croire que les mardis à 5€ semblent pas très populaires à ces derniers temps. Après mon fixe de cinoche, je suis retourné à l'auberge pour me mettre au lit en prévision de l'ultime journée de marche de mon pèlerinage demain. Celle qui m'amènera jusqu'au bout du monde et qui s'annonce comme déjà très émotive pour moi. Allez, à plus!
Août 2017. C jusqu'à Finistère. Distance parcourue, 12 km. Puisque la distance que j'avais à parcourir aujourd'hui était très courte, je me suis permis de dormir jusqu'à 8 heures ce matin, d'ensuite prendre une longue douche chaude et de manger un bol de céréales pour déjeuner. Mon premier en très longtemps. J'ai pris la route à 9 heures, tout en appréciant chaque pas de ma dernière journée de marche. Après environ 1 heure, j'ai aperçu en bas de la route une plage où seulement 3 personnes y ramassaient des coquillages. J'ai pas pu résister au plaisir d'aller me plonger les pieds dans le sable et dans l'eau. Après avoir descendu la pente et à peine après avoir posé mes pieds sur le sable, une fille se trouvant déjà là m'a fait signe avec ses bras. Je me suis avancé vers elle. C'était une fille de Belgique qui était dans le même petit groupe que dans lequel se trouvaient Frédéric de Toulouse et ses 2 filles. Depuis le début du mois, elle et moi nous saluons de la tête en se faisant un sourire poli. Mais nous n'avions jamais eu une conversation en tête à tête tous les deux. Cela a finalement changé dans ce qui a sûrement été notre dernière rencontre. Nous avons parlé de ce qui s'annonce pour nous sur la suite de nos routes respectives et de certains moments de notre voyage. Après un moment, elle est partie en compagnie de son amie. Moi, je suis resté un peu plus longtemps sur la plage à me tremper les pieds dans l'eau et à ramasser un peu de sable dans un petit pot que je donnerai en souvenir à ma sœur à mon retour. Lorsqu'une petite brune a commencé à tomber, j'ai changé mes bas et je me suis remis en chemin pour les quelques kilomètres restants avant Finistère. Tout le reste de la route a longé les plages et les petites agglomérations de la côte jusqu'à ce que j'arrive à destination.
Après avoir fait mon enregistrement à l'auberge dans ce petit village exigu qui est Finistère, j'ai gardé tout mon paquetage et mes bâtons de marche avec moi au lieu de les laisser dans le dortoir. Je voulais faire ces derniers kilomètres jusqu'au phare de Finistère en guerrier, accompagné de tout l'équipement qui m'a si souvent été d'un précieux soutien depuis un mois. J'ai entrepris l'ascension de 2,2 km d'une montagne jusqu'au phare. Une douzaine de minutes plus tard, j'y étais arrivé, en compagnie de plusieurs dizaines de touristes et de curieux. Mon premier arrêt a été à la fameuse borne indiquant le 0 km absolu, le point final du Camino Francés, là où la route du pèlerin s'arrête pour redonner tous ses droits à l'océan Atlantique. Je suis très fier d'être arrivé jusqu'ici. Mission plus qu'accomplie. Après quelques photos pour immortaliser ce moment très spécial de ma vie, il était temps de m'occuper de la véritable raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici. Après avoir trouvé un très bel endroit sur l'un des flancs de la falaise donnant sur l'océan, j'ai sorti pour la dernière fois de mon sac à dos le sac en velours bleu contenant les cendres de mon père. Il en restait tout juste deux poignées. Tout en tenant l'avant-dernière dans ma main, j'enregistrais une vidéo destinée à Gabrielle et Joanne, mes deux sœurs, ainsi qu'à Marie et Mireille, les deux cousines de mon père, pour que nous jetions tous ensemble cette poignée à la mer. Je tenais à ce qu'elles vivent ce moment avec moi. Ce fut ensuite à mon tour d'avoir mon moment, prévu dans ma tête depuis si longtemps, avec la dernière poignée de cendres. Tout en écoutant Father and Son de Cat Stevens et en me remémorant tous les souvenirs que j'ai eus en compagnie de mon père dans ma vie, j'ai laissé les flocons de cendres doucement s'envoler de mes doigts à chacun des souffles du vent pour qu'il les amène à l'océan. Voilà comment je voulais que soit ce dernier adieu à mon père. Symbolique, significatif, fait avec cœur, et fait à ma manière. Une fois ce moment émotif terminé, j'ai perpétué une tradition que les pèlerins ont en ce lieu spécial. Ils laissent derrière eux, ou brûlent, un de leurs vêtements pour symboliser la fin de leur camino. Pour ma part, j'ai laissé sur un rocher l'une de mes paires de bas, ainsi que le sac de velours qui a transporté les cendres. J'en avais plus besoin. J'étais pas tout de suite prêt à redescendre jusqu'au village. Je me suis assis pendant une trentaine de minutes sur un rocher et j'ai contemplé l'océan, le ciel et l'horizon aussi longtemps que possible pour ne jamais oublier cette vue. J'ai ensuite commencé ma descente de la montagne jusqu'au village. Tout au long du trajet, je me suis senti étrange. Un mélange de satisfaction du devoir accompli et d'une tonne de fatigue qui s'en est pris à mes muscles. L'adrénaline et la détermination mentale qui me tenaient en un seul morceau depuis un mois n'avaient plus lieu d'être, maintenant que tout était accompli. Tous les visiteurs et pèlerins que j'ai croisés pendant ma descente me saluaient de la tête. Je leur rendais leurs salutations. Je demande si mon apparence leur révélait que j'étais bel et bien un pèlerin arrivé jusqu'au bout de sa route et que c'est ça qui justifiait leur sourire et leur satisfaction à mon endroit. Peu importe la raison, leurs gestes m'ont fait du bien. Arrivé à l'auberge, je me suis délesté de mon paquetage et de mes chaussures et j'ai fait une brève sieste. Après mon repas, je me suis promené dans le village et sur le bord de la côte. J'ai découvert une superbe petite plage isolée dans laquelle j'ai encore trempé mes pieds mal en point dans le sable et dans l'eau claire. Après avoir rédigé mon journal, je me suis mis au lit vers 22h30. Les prochaines lignes que je vais écrire sur ces pages seront écrites en direct de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, à plus. I know I have to go.
Août 2017. Finistère jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il était temps que je quitte l'auberge dans laquelle j'ai passé la nuit. Elle m'a fait penser à l'étage d'un hôpital. Tout au long de la journée, quelques marcheurs sont restés écrasés dans leur lit sans bouger dans une grande pièce plongée dans la pénombre. Tout ce qu'ils faisaient était de regarder dans le vide pendant un long moment avant de fermer les yeux pour essayer de se rendormir. Burk. Ça m'a rappelé certains souvenirs peu réconfortants. À mon lever vers 7h, la propreté du reste de l'auberge laissait à désirer. Un tas de gens n'avaient pas fait le ménage de la cuisine après l'avoir utilisée et ont laissé des tas de traîneries répugnantes dans toutes les cabines de douche. Après avoir pris la mienne dans la moins pire, j'ai rassemblé mes choses et j'ai sacré le camp au plus vite. Puisqu'il me restait une heure avant le départ de mon autobus, j'ai fait un petit arrêt dans un café pour y prendre un croissant et un café au lait tout en lisant le cahier des sports pour tuer le temps. Apparemment, le joueur du Barcelone, Neymar Junior, est en pleine négociation pour être transféré au Paris Saint-Germain pour un montant record. Les fans de foot espagnol sont pas très heureux. L'autobus a quitté le village à 9h45 en direction de Santiago. Finistère ne me manquera pas. Outre son phare et sa plage, j'ai trouvé l'endroit très serré, claustrophobique et étouffant. Vivement mon retour dans un endroit plus vaste.
L'heure et demie d'autobus n'a pas été de tout repos non plus. La route sinueuse et bourrée de nombreuses côtes n'a pas aidé à me réconcilier avec ce moyen de transport. J'ai eu des hauts le cœur tout le long. Pour empirer la chose, le jeune assis devant moi schlinguait d'une manière hors du commun. Tout est ensuite rentré dans l'ordre au niveau de mes fonctions corporelles une fois arrivé au terminus de Saint-Jacques. J'ai fait le chemin à pied jusque dans la vieille partie de la ville. Je me suis pas rendu tout de suite à mon auberge, puisque j'avais droit à une journée au ciel bleu et magnifiquement ensoleillé. J'ai pas pu résister à l'envie de revisiter tous les lieux que j'avais eu le plaisir de découvrir lors de mon premier séjour ici. Il y avait aussi beaucoup moins de touristes que la fois précédente. Pendant plus d'une heure et demie, je me suis senti tellement bien et relax en me promenant à nouveau dans ces rues et ces parcs que je connaissais maintenant par cœur, tout en me remémorant la première fois où j'y avais mis les pieds. J'ai eu le sourire sur le visage tout le long et tout en écoutant de la musique qui représentait tellement bien ce que j'éprouvais à ce moment. J'avais pas ressenti cette sensation de redécouvrir une ville pour la première fois depuis la deuxième fois où je suis allé visiter New York il y a 2 ans. Ça faisait un moment que je m'étais pas senti si bien et à ma place. Après avoir été déposé mon paquetage à l'auberge où j'avais élu domicile la première fois et m'être fait une salade pour dîner, je suis retourné brièvement me promener en attendant que mon lavage soit fini. J'ai fait un petit tour sur le chemin que j'avais emprunté il y a quelques jours pour amorcer ma route vers Finistère. Après avoir soupé vers 19h30, j'ai pas pu m'empêcher de ressortir prendre une troisième marche dans le centre-ville pour profiter une dernière fois et mémoriser le plus possible d'images de cette ville qui a été mon objectif pendant un mois. J'ai regardé le soleil se coucher et j'ai été faire de même en prévision d'un lever du corps à 6h pour prendre mon train en direction de Madrid un peu plus tard en matinée. La morale d'aujourd'hui est que Saint-Jacques-de-Compostelle est encore plus passionnante et agréable à découvrir la deuxième fois. Je me sens chanceux et privilégié d'avoir pu y faire un deuxième séjour pour le découvrir. Allez, à plus!
Août 2017, Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Madrid. Dès mon lever, j'ai eu le temps de prendre une douche et de me raser. J'ai englouti un yogourt et une banane pour déjeuner et j'ai quitté l'auberge un peu avant 7 heures. Une pluie fine tombait sur la ville tandis que les lueurs du jour commençaient à poindre dans le ciel. Ayant une cinquantaine de minutes devant moi avant le départ de mon train, j'ai pris le chemin le plus long pour me rendre à la gare. Je suis repassé par la grande place pour payer mes hommages à la cathédrale une dernière fois. Quelques dizaines de minutes plus tard, j'ai pris place à bord du TGV pour un voyage d'un peu plus de 5 heures vers la capitale espagnole. J'ai pu y regarder La La Land et un film documentaire sur le joueur de foot Pelé sur l'écran que j'avais devant moi lorsque je somnolais pas. Je suis arrivé à Madrid vers 13h et j'ai tout de suite pris le métro en direction de mon auberge. Après le trajet et lorsque je suis monté à la surface, j'ai immédiatement pu constater que les histoires au sujet de la chaleur accablante des après-midi de Madrid sont vraies. Il fait chaud et humide en tabarnak. Après avoir déposé mon paquetage dans ma chambre avec un lit et une salle de bain juste pour moi, je suis sorti me trouver une épicerie pour me procurer les choses nécessaires pour me cuisiner mes repas des prochains jours. Après un sandwich au thon, j'ai fait une sieste beaucoup plus longue que prévu. Je me suis réveillé en sursaut à 19h30. La chaleur étant tombée de quelques degrés, je suis sorti pour mettre le cap vers la Puerta del Sol. J'ai rapidement débouché dans cette grande place publique et dans toutes les rues commerçantes qui la composent. J'ai bien dû y marcher pendant plus d'une heure et demie. Quel quartier fourmillant et spectaculaire dans lequel je suis arrivé. Vers 21h30, je suis arrêté souper dans un resto et j'ai mis le cap vers ma chambre d'hôtel. Bien installé dans mon lit, j'ai pu chatter avec quelques amis tout en mangeant des cerises devant un match de soccer à la télé. Je me suis ensuite mis au lit pour de bon vers minuit afin d'être prêt et reposé pour ma journée d'exploration de la ville demain. Allez, à plus!
Août 2017, Madrid. Je me suis offert une grasse matinée jusqu'à 9h. Après avoir déjeuné et sauté dans la douche, j'ai mis le cap vers mon premier arrêt de la journée, le parc du Retiro. C'est un peu l'équivalent du Central Park de Madrid. Une douzaine de minutes de marche a été suffisante pour arriver sur les lieux à partir de mon hôtel. Il faut traverser sur à peu près 300 mètres un marché du livre aménagé sur le trottoir avant d'accéder à l'entrée principale du parc. Une fois arrivé pour de bon, j'ai déambulé à mon gré dans les très nombreuses petites routes du parc qui mènent à toutes ses extrémités. Chacune d'elles comporte des zones aménagées différemment des autres lieux. C'est un très beau parc reposant et immense à la fois. Ça m'a pris un peu moins de 2 heures pour le visiter au complet. Je suis ensuite retourné à ma chambre pour dîner avant de ressortir pour visiter le Palais Royal. Quelques stations de métro plus tard et j'y faisais mon arrivée.
J'ai fait le tour de l'extérieur tout en prenant beaucoup de photos. J'ai ensuite poursuivi ma visite en me rendant voir de plus près le stade où joue le Real Madrid. Ce qui est ironique, c'est que je suis ici à Madrid et le Real est en Amérique du Nord en train de participer au match des étoiles de la MLS. De plus, j'ai raté le plus récent match de l'Atlético de Madrid de seulement 48 heures. Mauvais timing, tout simplement. Je m'offrirai mon fixe de foot avec un match de l'Impact au stade Saputo à mon retour. Alors que la chaleur accablante de 15 heures commençait pas mal à se faire sentir, je suis rentré à l'hôtel pour une petite pause à l'air climatisé. Après souper, je suis retourné prendre une marche dans le coin de Gran Vía, le quartier des spectacles de Madrid. Je le compare pas mal à Broadway, à cause de tous ces théâtres qui y jouent des pièces et des comédies musicales. J'ai arpenté les rues du coin jusqu'à ce que la noirceur tombe et je suis retourné à mon hôtel. J'ai pris le reste de la soirée pour discuter avec des amis sur Internet et écrire les lignes qui apparaissent dans cette page de mon journal. Allez, le sommeil me gagne de plus en plus et j'ai un épisode de Rick and Morty à finir d'écouter. À plus! Sessoux 2017, Madrid. Pour cette dernière journée complète en terre madrilène, j'ai encore eu envie de me promener dans la ville. Après une recherche des lieux d'intérêt à visiter, je suis tombé sur la Casa de Campo, le plus gros parc nature de la ville. Après déjeuner, j'ai enfilé mes godasses et mon chapeau et j'ai pris la route vers ma destination. Une vingtaine de minutes de métro me suffit pour arriver sur les lieux. Google ne m'avait pas menti. Ce parc nature est vraiment immense. Tellement qu'il y a même de la place pour un énorme parc d'attractions semblable à la ronde. La végétation y est variable. Certains endroits sont verdoyants, tandis que d'autres portions du parc sont sèches, arides et quasiment désertiques tant les arbres et le sol sont desséchés. Je me suis aventuré parmi les très nombreux sentiers sans trop savoir où je me dirigeais. J'avais juste envie de longuement marcher au soleil en profitant de l'endroit, tout en découvrant ce que chaque recoin cachait comme secret. Après un bon 2 heures à rôtir au soleil sur l'un des sentiers faisant le tour du parc, j'ai pu finalement sortir et remettre le cap vers mon hôtel. L'effort qu'a demandé ma marche à Casa de Campo me donnait envie de faire une sieste bien au frais dans ma chambre. Après quelques heures de repos, je suis ressorti à l'extérieur pour accomplir mon second objectif de la journée. M'offrir une authentique paella espagnole en guise de dernier repas à Madrid. Cet objectif n'a pas été trop dur à atteindre. J'avais déjà repéré dans le quartier un petit resto-bar spécialisé en paella. C'est donc là que j'ai fait mon arrêt. La paella valentiana que j'ai dégustée a tenu ses promesses envers moi. J'ai déjà hâte de reproduire la recette à la maison et de partager ce repas avec famille et amis. Après avoir fini mon repas et ma bière, j'ai été prendre une autre longue marche pour digérer. J'ai refait exactement le même chemin qu'hier soir dans le coin de Gran Vía. J'y ai un peu plus pris mon temps, en sachant que c'était la dernière fois que je mettais les pieds en ces lieux. Une fois la nuit tombée, j'ai commencé à tranquillement faire mes bagages en prévision de mon départ demain matin. Je me suis ensuite mis au lit vers 23h30. Allez, à plus!
Sessoux 2017, Madrid jusqu'à Montréal. Mes derniers moments en Espagne ont débuté vers 8h en matinée. J'ai pris une longue douche et enfilé des vêtements propres. J'ai ensuite fait une dernière vérification de mon équipement et de mes bagages pour m'assurer de rien oublier derrière moi. J'ai quitté mon hôtel à 9h30. Avant de me mettre en route vers l'aéroport, je me suis offert un dernier petit plaisir relaxant pour bien amorcer cette longue journée. Un arrêt dans une pâtisserie pour déguster une chocolatine et un café con leche. Une fois cela fait, j'ai mis le cap vers la Puerta del Sol pour la revoir une dernière fois avant d'entrer dans la station de métro qui se trouve tout près de là. Pendant la vingtaine de minutes de métro jusqu'à l'aéroport, je me suis remémoré le moment où je faisais le chemin inverse le jour de mon arrivée dans cette ville et dans ce pays. À ce moment, le 3 juillet dernier, j'étais loin d'avoir l'expérience et l'assurance que j'ai aujourd'hui. La comparaison entre ces deux versions de moi m'a fait doucement sourire pendant le trajet. Après mon arrivée à l'aéroport, l'enregistrement et avoir déambulé pendant quelques heures dans tous les coins du bâtiment, j'ai pris place dans l'avion bondé de passagers qui retournaient aussi vers chez eux. Entre les repas et les films projetés dans l'avion, j'ai discuté avec une passagère assise à côté de moi. Elle a remarqué l'orthèse que je portais à mon genou gauche et m'a demandé ce qui m'était arrivé. Je lui ai parlé de mon pèlerinage et de ses moments importants. Cette résidente de Québec m'a parlé de son mari qui a aussi comme projet de faire le Camino de Santiago un jour, mais qui est toujours retardé dans son projet par l'incertitude et le manque de sérieux dans la préparation des gens qui veulent l'accompagner. Je lui ai parlé des nombreuses rencontres qu'un pèlerin fait sur le chemin et qu'à cause d'elle, son mari ne sera jamais vraiment seul sur le Camino. Bref, je lui ai fait un autre de mes fameux pep talks. Ça a eu l'air de très bien fonctionner. Il s'est ensuite passé un moment touchant dans notre conversation. Lorsqu'elle m'a demandé mes raisons pour faire mon pèlerinage,
j'ai fini par lui parler de la dispersion des cendres de mon père que j'avais emporté avec moi. En entendant mes paroles, ma voisine de siège a été profondément touchée et émue. Elle a même commencé à sangloter. Ce fut à son tour de me révéler que son beau-frère était décédé il y a 2 semaines et que c'est pour cette raison qu'elle et son mari sont allés en Espagne, pour annoncer la triste nouvelle à sa belle-mère. Elle s'est ensuite retournée vers le hublot et a longuement regardé le ciel en pleurant silencieusement. Je n'ai plus rien dit. Je l'ai laissé vivre son moment. Tout en la regardant discrètement, j'analysais ce à quoi elle devait songer depuis les dernières minutes. Je me plaisais à penser qu'elle imaginait son mari en train de marcher en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout en transportant avec lui les cendres de son frère pour lui rendre un dernier hommage aussi libérateur que symbolique. Peut-être que la discussion que j'ai eue avec elle lui donnera les arguments nécessaires pour convaincre son mari de cesser d'attendre après les autres et de réaliser son projet. Après environ 8 heures de vol, mon Boeing s'est posé à Dorval par un après-midi radieux. Avant de quitter mon siège, j'ai salué ma voisine, qui a fait la même chose, avant de me dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit « C'est pas par hasard que tu étais assis à côté de moi aujourd'hui. » Après avoir passé à travers les douanes et la récupération de mon sac à dos, j'ai enfin pu vivre un moment auquel j'ai beaucoup songé pendant ma longue marche. Celui d'être accueilli à la porte des arrivées de l'aéroport par Tina, l'une de mes très grandes et très chères amies. Qu'elle soit la première personne dont je revois le sourire si heureux et authentique lors de mon retour chez moi a été si agréable et satisfaisant pour moi. Surtout que depuis mon époque moderne de voyageur, c'était la première fois qu'une personne venait me chercher à l'aéroport. À partir de maintenant, je vais cesser de m'obstiner à vouloir rentrer à la maison par mes propres moyens après un vol d'avion. Oui, elle était définitivement la personne que je souhaitais revoir dès mon retour. Notre dynamique habituelle a immédiatement repris. À un moment donné, pendant qu'on était en route vers sa voiture dans le stationnement de l'aéroport, il y a un moment où est-ce qu'on s'est regardé en riant. Ça, je suis convaincu que ça voulait dire « J'arrive pas à croire que t'es là ». Pendant que nous avancions à pas de tortue dans la circulation de l'heure de pointe, nous nous sommes raconté tous les points forts de nos mois de juillet. Elle m'a raconté ce que j'ai manqué dans sa vie pendant mon absence et je lui ai parlé des petits miracles que j'ai vécu sur le Camino. Être pris dans une heure de pointe n'aura jamais été aussi agréable. Après avoir finalement atteint mon appartement, j'ai rapidement déposé mon sac à dos et j'ai invité Tina à venir prendre un verre tout près de chez moi. Tout en savourant mon premier Black Velvet depuis des lunes, je lui ai montré toutes mes photos de voyage en lui racontant l'histoire qui accompagne chacune d'elles. Le tout a duré plus d'une heure et demie. J'avais besoin de toutes ces minutes en sa compagnie. Après l'avoir reconduit à sa voiture, j'ai pu rentrer chez moi et redécouvrir mon appartement et revoir les choses que j'avais laissées derrière moi. Dans ma chambre, j'ai retrouvé la note que je m'étais laissée quelques minutes avant mon départ pour me féliciter d'avoir fait ce pèlerinage jusqu'au bout. Ce moment de rentrer chez soi pour de bon a été spécial à vivre. J'ai ensuite pris ma crédentiale et ma Compostela et j'ai mis le cap vers chez ma mère pour aussi la revoir enfin. J'ai passé aussi 1 heure et demie à lui montrer mes souvenirs et mes photos tout en lui racontant mes histoires de voyage. Ça aussi, ça m'a fait le plus grand des biens de la revoir. J'ai quitté à 21h et j'ai mis le cap vers le comptoir pour emporter du restaurant Saint-Hubert près de chez moi. Il était enfin temps de m'offrir la poutine au poulet dont je rêvais sur les routes vers Santiago. Elle a été dégustée dans mon salon devant Diamonds Are Forever, un film de James Bond. Il est maintenant passé minuit, il est temps de retrouver mon lit pour de bon. Je suis de retour à la maison. Ce voyage-ci est maintenant terminé, mais le prochain est déjà en train de doucement se planifier dans ma tête. Je vais fermer les yeux, m'endormir et aller y rêver. Allez, à plus!